Consommer.
Apple.
Consommer.
Tesla.
Consommer.
Écologie.
Consommer.
Pick-up.
Consommer.
SUV.
Consommer.
Vous avez rien compris? Ben, bienvenue dans Éclectique.
Aujourd'hui, on va parler d'écologie, on va parler de type d'énergie, de véhicules électriques et peut-être plus si affinité. J'ai la chance, en fait, d'avoir Mathieu Blanco et j'ai aussi la chance de suivre son compte Dark Matte, qui se veut un compte tofu fumé niveau expert. Alors, bonjour Mathieu.
Bonjour, merci pour l'invitation et la présentation.
Ben, j'ai repris exactement ce que tu as écrit là. Je sais que t'es pas juste tofu fumé niveau expert, t'es aussi levure alimentaire expert, je pense.
C'est ça. C'est ça.
Mathieu Blanco, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui tu es?
J'ai fait beaucoup de choses sur Internet. J'ai fait beaucoup de podcasts de 2007 à 2012. Des podcasts qui étaient classés souvent numéro 1 sur l'iTunes Store à l'époque, aux côtés d'autres grands médias. Donc très très populaires, c'était des podcasts souvent dédiés à l'actualité tech. Et j'ai arrêté, en fait, en 2012-2013. J'ai monté d'autres chaînes YouTube, un petit peu sur l'actu tech, aussi sur l'alimentation. Et en fait, depuis plusieurs années, je me concentre sur mes projets personnels et puis sur Internet, sur des cours en ligne. Voilà, je me suis vraiment complètement mis à fond. Toutes mes activités, en fait, sur Internet, je les ai mis sur les cours en ligne. Donc, je fais des cours principalement sur le marketing, sur comment faire ses propres podcasts, le montage vidéo, etc. Tout ce genre de choses très sympathiques.
Oui, effectivement. Puis pour la petite blague, ma conjointe m'avait offert les premiers Apple TV, les premières petites boîtes noires. Et tu étais parmi mes émissions préférées parce qu'on pouvait pas mettre grand chose. Pas que ton émission était
c'est
pas bien,
là, mais
c'était évident qu'on était abonné. Je pense que c'était la revue Tech, hein, ça se peut?
C'était ça, ouais.
Ouais, c'est en podcast vidéo, il y en avait très peu qui faisaient ça à l'époque. T'étais un des rares en francophone à le faire. Il y avait plusieurs contraintes aussi à l'époque. Là, c'était pas aussi simple que comme YouTube maintenant. Ouais. J'ai découvert aussi beaucoup le podcast grâce à toi, notamment le podcast vidéo.
Ah oui, c'est vrai, parce que sur les premières Apple TV, il n'y avait pas les podcasts audio. Ouais. Que les podcasts vidéo. Et du coup, effectivement, le choix soudainement, dès que tu retirais l'audio sur iTunes, vu que c'était principalement fait pour les iPods, effectivement. Le choix devait pas être très très large.
Écoute, j'avais une question un peu bidon que j'ai repris. Tu sais, des fois quand on a un invité, je recherche meilleures questions à poser en interview. Et j'en avais une, je vais te la poser quand même, je la trouve drôle. Comment tes parents décriraient-ils ce que tu fais dans la vie? Parce que bien souvent, quand on est dans le domaine du numérique comme tu l'es, tu es aussi dans un domaine très très concret, mais dans le domaine du numérique, comment tes parents décriraient ce que tu fais?
Il fait des trucs sur Internet.
C'est ça! Effectivement, c'est à peu près ça.
Il fait des vidéos ou il fait des choses là sur Internet. Ouais. Ça marche bien.
Mais dis-moi, t'es pas juste dans le numérique, t'es aussi dans le concret au niveau alimentaire.
Oui. J'ai créé entre guillemets pour m'amuser un produit en 2013 et puis au fil des années, je me suis associé avec d'autres personnes et en fait on a cofondé. J'aime pas appeler ça une usine parce que c'est pas une usine, mais plus un atelier de fabrication de produits 100% biologiques à Lyon, en France. Et du coup, on travaille avec des chaînes de magasins pour fabriquer en fait des produits du petit déjeuner. Donc tout ce qui est granola, barres de céréales, préparation culinaire. On a toute une gamme de produits et donc ça a été un très très gros projet sur plusieurs années, où il a fallu tout développer de zéro.
Alors aujourd'hui, on va parler de biologie, puis d'écologie en fait, et c'est pour ça que je fais le lien avec le niveau alimentaire, que en fait, cet aspect de ta carrière-là, parce que quand tu fais du biologique au niveau alimentaire, j'imagine que tu t'informes de plus en plus ou beaucoup sur ce qui est toute l'écologie, j'imagine.
Ouais, une fois que tu rentres dans ce monde-là et surtout quand tu quand tu es toi-même, quand tu maîtrises toute la chaîne, c'est-à-dire pas simplement acheter des produits que tu vas mettre ton autocollant dessus et puis les revendre, vraiment quand tu fabriques tout de A à Z et que tu gères l'ensemble de la chaîne, t'es obligé de te mettre à fond dans les ingrédients ou même ne serait-ce que pour développer les recettes. Et à partir de là, tu commences à rentrer dans le très concret, tu commences à voir toutes les choses, pas très cool, que plein de marques font ou ceux qui sont pas dans le biologique. Et après, il faut réussir à créer des produits où en même temps, on va te demander de les faire le moins cher possible, ouais. En même temps, la meilleure qualité. Et donc, c'est toujours un jeu qui est très, très compliqué de dire « je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de, je sais pas, prendre des ingrédients bons, je vais essayer de prendre du chocolat où je sais qui c'est qui a cueilli les fèves de cacao et que c'est pas un esclave ou un enfant. » Et donc à partir de là, à chaque fois, tu rajoutes des centimes ou des dizaines de centimes pour faire les choses bien. Et puis à la fin, on te dit « oui, mais votre produit, il est trop cher. » Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire les choses correctement. On a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Donc là-dessus, on peut être très, très fiers. Mais c'est vrai que tu te rends compte à quel point c'est compliqué de faire les choses bien et à quel point c'est simple de faire les choses très mal. Pour pas employer des mots un peu plus vulgaires. Mais voilà, le monde, à partir du moment où tu passes dans la fabrication, la conception de produits, que ce soit des produits alimentaires ou autres, faire les choses de manière sale, c'est très, très simple et c'est même encouragé. C'est vraiment, c'est le truc que tu t'en rends compte quand t'es sur le terrain ou t'es face à ça.
Ben, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu t'intéresses de par tes productions à l'écologie. Je pense que de par aussi ta vie, tu es végane, si je ne m'abuse.
Depuis 5 ans, à peu près, ouais. Depuis 5 ans et quelques mois. Alors, j'ai pas fait de, comment ils appellent ça, de vegan anniversaire. j'ai pas encore fait ça. Mais oui, ça devait être un test durant une semaine. Et puis en fait, ça fait 5 ans que ça dure. C'est un très long test.
Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs raisons des fois qui poussent à changer son alimentation. Te connaissant, en te suivant, en fait, pas te connaissant, mais en te suivant dans les médias sociaux, j'imagine que la partie changement alimentaire, changement de vie, création d'un commerce plus bio, et c'est parce que t'as une grosse sensibilité à l'écologie, c'est pour ça que tu t'y intéresses énormément.
Il y a ça.
Oui.
Il y a beaucoup de ça. En fait, c'est généralement les trois raisons. Ça peut être effectivement l'écologie, l'impact écologique,
ouais.
Les animaux et la santé.
Ouais.
Effectivement, moi, je l'ai découvert. C'est même pas moi qui l'ai découvert. Je l'ai découvert par quelqu'un d'autre. Et en fait, j'étais tombé sur un document, une étude scientifique, etc., qui faisait des comparaisons d'alimentation. Et puis en fait, j'ai juste percuté en lisant ce document scientifique qui n'était pas du tout une action d'association ou un truc commercial. C'était juste, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, est-ce que quelqu'un qui décide d'avoir une alimentation 100% végétale peut vivre en bonne santé ? Puis effectivement, c'était une étude qui comparait les différents modes d'alimentation. Ou même par exemple le mode d'alimentation occidental, le mode d'alimentation des Inuits qui se nourrissent presque que de poisson, les gens qui mangent que végétarien, les gens qui mangent 100% végétal. Puis en fait, juste en lisant le truc, il y a une connexion qui s'est faite dans ma tête. Je me dis, bah en fait, visiblement, scientifiquement, c'est possible de vivre bien sans manger de viande. Et ça va à l'inverse de tout ce que moi, on m'a appris, en fait. Et c'est là où, quand tu commences à tirer le fil, tu te rends compte que là-dessus, on t'a clairement menti. Le lait, pareil. Tu te dis, mais en fait, c'est un truc qui est assez récent. Ça date des années 50. C'est un business. On peut appeler ça autre chose. C'est un énorme business, c'est tout, quoi.
Ouais.
OK, d'accord. Puis tu tires la ficelle. Et puis, en fait, tu découvres un petit peu tout le truc. Après, tu découvres effectivement les conditions dans lesquelles c'est fabriqué, les gens qui travaillent là-dedans, les animaux. Enfin, tu te dis... Il y a un problème. Et après, effectivement, tu vois effectivement l'impact écologique que ça a et tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Le consommateur est perdant sur sa santé, l'animal, il y perd sa vie, la personne qui travaille là-dedans, elle devient... Enfin, ils deviennent pas fous, mais c'est des gens qui sont détruits au bout de 20 ans dans les abattoirs, etc.
Tu parlais des producteurs laitiers, eux autres aussi, ils se font flouer bien souvent, là.
Ils se font les gens qui produisent soit les animaux ou soit les produits d'origine animale, ils se les font acheter à des prix qui parfois est en dessous de leur coût de production. Et tu te rends compte qu'il y a qu'un gagnant dans toute la chaîne. C'est en France, c'est la famille Bidule qui a racheté tout le monde et qui est riche à milliards. Tu fais OK, en fait, il y a deux trois gagnants. C'est des c'est des familles qui ont hérité ou c'est des gens qui ont fait des gros business et tout le monde est perdant après dans tout là. Après l'écologie, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Tu présentes ça à un gamin de 5 ans ou de 6 ans, tu lui dis « Est-ce que tu penses que ça fonctionne ?» Tu lui dis « Voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. » Il dit « Bah non, ça marche pas. » Tu vois, ça peut pas... Ou alors, ça va continuer durant 5 ou 10 ans et puis ça va s'effondrer, tu vois, parce que c'est... Il n'y a rien qui va, en fait.
C'est pas viable pour l'humain, pour la planète, pour pas grand-chose, en fait, effectivement.
C'est viable pour personne et au final, t'as juste un ou deux gagnants dans la chaîne qui est toujours les mêmes et qui a déjà... gagner en quelques décennies de tout l'argent que je sais pas qu'une personne si une personne payait normalement si elle voulait gagner la même chose il faudrait qu'elle travaille durant 3000 ans non-stop tu vois enfin ce genre de choses et donc à partir de là moi je suis arrivé quelques années avant qu'il y ait le grand boom des associations des vidéos etc. Mais il y avait déjà quand même en France, si t'allais vraiment dans des magasins spécialisés, dans un coin au fond, tu vois, le truc pas du tout mis en avant.
Avec la poussière.
Avec la poussière, tu pouvais déjà trouver des pavés de tofu ou même l'époque, il y avait genre qu'une seule saucisse vegan, tu vois, t'en avais pas 50 000 comme on en a aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer durant une semaine? Et puis, en fait, effectivement, au bout d'une semaine, déjà même physiquement, moi, ça a eu un effet très, très positif. Je sais qu'il y a des gens où c'est un peu plus compliqué. Et puis en plus, comme je suis dans l'alimentaire, je n'ai pas eu de problème, si tu veux, à faire de transition d'un point de vue des nutriments, parce que quand je fais des tableaux nutritionnels pour mes produits, je peux aussi le faire pour ce que je mange.
C'est ça.
Mais après, je sais que pour des gens, c'est assez compliqué, déroutant. Mais voilà, là-dessus, je n'ai pas eu les problèmes que les gens rencontrent la plupart du temps. Parce que j'ai mes connaissances là-dedans et donc du coup j'ai fait ma petite transition, ça a duré une semaine, 15 jours et en fait voilà ça fait 5 ans et au fil du temps il y a eu je sais pas combien de produits, de poulet sans poulet, de steak saignant, de machin. Alors, je suis pas très consommateur mais je suis très content de voir ça parce que ça a développé tout le reste autour et puis c'est vrai qu'aujourd'hui voilà je me porte très bien là-dessus. Ouais, très content de tout ça.
T'es visiblement encore vivant, alors on peut ne plus...
Oui.
avec aucune carence, tout va bien.
Ah non, moi j'ai même pris j'ai dû prendre entre 10 et 15 kilos. Ouais. Après j'en avais besoin, donc si tu veux ça a été un bon rééquilibrage comme il faut. Je sais qu'il y a des gens qui disent je suis devenu vegan, j'ai perdu 10 ou 15 kilos, mais parce qu'ils en avaient visiblement besoin aussi. Et moi, ça a été l'inverse. J'avais besoin de prendre pas du poids, mais prendre de la masse. Et en fait, effectivement, le régime végétalien à base de beurre de cacahuète a très bien fonctionné. Là-dessus, c'est très efficace.
Bon, ben, on va faire du lien avec l'alimentaire. Excuse-moi, on va parler de pommes. On va parler d'Apple.
Oui,
parce que moi...
excellente transition.
parce que
en
moi,
plus,
je
t'ai visité une cidrerie dernièrement qui avait l'air magnifique.
Écoute, moi, je suis né en Normandie et mes parents ont immigré au Québec et j'ai toujours mal de trouver du bon cidre ici au Québec parce que ce qui est vendu dans la grosse chaîne qui est un monopole d'État, hein, la Société des alcools du Québec.
La SAQ.
La SAQ. Ce qui est vendu là, c'est souvent des cidres très nord-américains sucrés ou des cidres un peu en mode liqueur. Tu sais, que tu prends à la fin d'un repas ou quelque chose.
Ah, le petit digestif, ouais.
Ouais, c'est ça. Et c'est des affaires excessivement sucrées. Et pour moi, le cidre, c'est pas, à mon goût, à moi, c'est pas nécessairement très sucré. Même que...
Toi, tu veux du brut.
Ouais, c'est ça. Et il y a pas vraiment de choix. Et on a un verger pas très loin de la ville de Québec. C'est le verger Tipol, qui est un coin de paradis. Parce que je veux pas le dire trop fort parce que c'est encore mon coin de paradis en ce moment. En temps de COVID, tout le monde s'agglutine dans les attractions touristiques et ça devient terrible. C'est pas plaisant, il n'y a pas de suite. Alors, on décide d'aller, nous, au verger Tipol. Alors, on ramasse des fruits, les enfants s'amusent dans la fermette. Puis moi, je reste, comme on dit ici, à côté au bar et je bois du cidre.
C'est parfait. Et, c'est vraiment parfait.
Et oui, et j'aime la pomme à boire, j'aime la pomme à croquer, puis j'aime la pomme à consommer. Et en suivant ton compte Twitter, quelle ne fut pas ma surprise, moi j'étais très content de lire cette nouvelle-là d'Apple qui disait que d'ici 2030, chaque appareil Apple vendu n'aura aucun impact sur le climat. Et moi, je suis sensible à ça et j'aime Apple. Alors je me dis, ouais, je vais relayer ça. Et toi, pas longtemps après, dans tes posts, tu reprends le titre et tu dis « explosion de rire ». Alors, je fais « mince, j'ai encore dit une connerie sur Twitter et je veux comprendre ». Et ça arrive souvent que je t'interpelle sur Twitter et tu prends toujours le temps, et j'apprécie, je te remercie, tu prends toujours le temps d'expliquer pourquoi tes réactions, ton cynisme ou ton ironie face à certaines actualités qui entourent l'écologie.
Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas, mais effectivement, quand les gens me posent la question... J'essaye de prendre le temps de répondre avec un peu plus de liens et un peu plus d'explications que simplement, effectivement, mes petites réponses cyniques ou quand je vois passer des choses qui me semblent ahurissantes. Effectivement, ce n'est pas du tout pareil pour d'autres personnes qui ont d'autres visions du monde ou qui ont d'autres connaissances sur le sujet. Donc, aucun problème, avec plaisir. Et c'est aussi pour ça que j'ai répondu à l'appel du podcast. C'est effectivement pour... aller un petit peu plus loin de la blague, du cynisme ou de la petite moquerie. Parce qu'effectivement, quand je vois qu'aucun appareil, quel qu'il soit, Apple ou autre, n'aura aucun impact, alors au début, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une mauvaise traduction, c'est un site d'actualité qui a traduit à la va-vite un communiqué de presse. Et en fait, non, quand je me suis rendu sur le site, c'était vraiment écrit tel quel, et je me suis dit, mais waouh! Qu'est-ce qui se passe? On est effectivement dans une dimension parallèle. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que soudainement, ça devenait un petit peu... Alors ça, j'aimais bien quand j'étais 8 mois au Québec, à Montréal. J'aimais bien voir s'il y a des expressions qui existaient des deux côtés. Est-ce que l'expression « la course à l'échalote » existe aussi en français québécois?
Non, vraiment pas.
C'est une très très vieille expression française qui n'est même plus trop utilisée en France. L'échalote ou l'oignon, ça désignait les fesses à un moment donné dans l'histoire, dans la langue française. Okay. Ce qui fait que quand tu fais une course à l'échalote, c'est quand tu prends quelqu'un au niveau du col et au niveau de la culotte, tu vois, et tu le fais courir. C'est un peu comme un, okay, comme un enfant que tu suspends comme ça. Et donc, en fait, la course à l'échalote, c'est un peu une course forcée, tu vois. Il faut faire un truc, donc on va essayer de faire plus que le voisin. Et c'est vrai que il y a une... J'ai pas d'autre expression, même en anglais, ça existe pas. Il y a une course à qui va faire le plus, une course à l'échalote entre les géants de la tech. Donc, on a carrément Apple qui nous dit... au même moment, à peu près, ils ont balancé leur même communiqué avec Microsoft qui met des petits tacles à Apple dans son communiqué parce que Apple l'a fait en premier, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Des fois, ça paraît complètement... complètement dérisoire ou rasoir. Et du coup, on a Apple qui nous dit, voilà, d'ici 2030, chaque appareil n'aura aucun impact sur le climat. Tu fais, ok, déjà, physiquement, ce n'est pas possible. Et ensuite, tu as Microsoft qui en rajoute une couche et qui sort lui-même son propre rapport où eux, carrément, ils disent que leur service auront un impact positif sur le climat.
Carbone, en fait, ils auront un impact carbone négatif, je pense que j'ai lu.
Carbone négatif. Donc, en fait, les produits Microsoft, ils vont émettre de l'oxygène. Tu vois, je trouve ça génial.
Je me suis dit, je vais acheter une palette de Surface Pro et je vais sauver la planète.
De l'oxygène. Voilà, si tu veux avoir de l'oxygène plus tard, il faut que tu achètes des palettes de produits Microsoft. Ça va recycler l'air autour de toi. Tu vois, c'est mieux qu'un ventilateur Dyson. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok, ils commencent vraiment à tous y aller. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des compagnies aériennes qui commençaient carrément comme Air France, mais j'imagine d'autres. Carrément, au moment où tu achètes les billets, ils t'écrivent, voilà, vous voulez aller de tel endroit, votre vol sera neutre en carbone. C'est magnifique, c'est-à-dire tu vas pouvoir cramer je sais pas combien de litres de kérosène et ce sera neutre en carbone, comme si ça n'allait rien faire, tu vois. Donc, on est vraiment rentré dans une forme de comment dire, on y était déjà, hein, mais de dissonance cognitive un petit peu non dite. Mais là, clairement, on rentre en fait dans une étape supplémentaire où c'est à mi-chemin entre la dissonance et le mensonge. Et c'est assez impressionnant la manière dont ils arrivent à tourner ça positivement.
Mais quand même, Apple fait beaucoup d'efforts pour ses data centers, pour avoir ses centres de données, pour qu'ils aient qu'ils soient alimentés avec des bonnes sources d'énergie. Leur nouveau centre en Californie a des panneaux solaires, ils sont lean, ils sont tout ça. Pour toi, c'est toujours mauvais ou il y a du bon là-dedans un peu?
En fait, c'est comment dire? C'est très difficile de critiquer parce que c'est ceux qui en font le plus, ouais. Mais le plus sur l'échelle des choses à faire, on n'est même pas à 1% de ce qu'il faudrait faire ou ouais. 2%, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand t'as la notion de l'échelle, et que tu vois des Apple, des Microsoft sortir des discours comme ça, où tu regardes un petit peu plus dans le détail, tu regardes vraiment ce qu'ils font, et en fait, tu vois vraiment que le discours est complètement... comment dire, ils ont des actions fortes, mais alors le discours, c'est du greenwashing à 4000%, où carrément, il y a des notions de physique qui sont improbables ou impossibles.
Ils ont de la bonne com.
Ils ont une très bonne com, et ils y mettent les moyens. Ils y mettent vraiment... Déjà, Apple est très très bon en com et en marketing, ça c'est... indéniable, mais effectivement Microsoft ou tous les autres ou même Facebook qui déplace ses data centers en Suède parce que c'est là-bas où il fait froid, tu vois, tu te dis ok. Alors c'est compliqué de maintenir des data centers sur certaines parties du globe, donc du coup les rares endroits où il fait encore froid, on va y mettre des data centers qui vont émettre de la chaleur. Enfin, on est dans cette logique, mais par contre ils arrivent à te tourner tous ces discours de manière très positive. Mais effectivement, quand tu as la notion de l'échelle des choses à faire, tu te dis c'est très peu. Donc celui qui en fait le plus, en fait, ça reste très peu. Et après, à partir du moment où tu commences à suivre des cours sur effectivement l'énergie, mais que ce soit les énergies fossiles, ouais. les énergies fissiles ou les énergies renouvelables, tu vois très vite les limites physiques en fait des discours, c'est-à-dire que quand tu as n'importe quelle société connue ou pas connue qui te dit moi mes data centers sont alimentés aux énergies renouvelables, tu sais que physiquement c'est pas possible. Donc en fait tu sais qu'elle fait un équilibre comptable en fait. Elle va consommer une certaine quantité de gigawatts par an avec ses méga data centers, et en fait ces gigawatts ils sont tirés sur le réseau en continu. Mais ça peut provenir de sources, de centrales à gaz, de centrales à charbon, de centrales nucléaires, ou peut-être un petit peu d'éolien ou de solaire. Et donc en fait, à la fin du mois ou à la fin de l'année, quand ils reçoivent leur facture d'électricité, tu vois, vous avez consommé 4 gigawatts, bah en fait, ils s'engagent à acheter 4 gigawatts à des producteurs d'énergie éolien, solaire ou à financer l'installation.
Ok, donc en fait, ils compensent, c'est ça?
Ils compensent, c'est de la compensation. Mais ce qui veut dire que quelqu'un qui te dit, moi je fais tourner, qu'est-ce que j'ai vu d'autre chose? Parce que j'ai un petit peu étudié, je suis allé plus loin dans les documents que tu peux trouver sur les sites d'Apple dans la partie environnement. J'ai vu des choses mais qui m'ont fait, beaucoup rire. Quand ils te disent qu'ils vont utiliser... de l'aluminium 100% recyclé, tout ça alimenté à partir d'énergie renouvelable. Je dis, pour dire quelque chose comme ça, faut avoir aucune conscience, aucune notion de comment est fabriqué l'aluminium ou l'aluminium recyclé.
L'aluminium, ouais, tu vas expliquer la fabrication de l'aluminium?
Bah, très, très rapidement. Si tu veux faire fabriquer de l'aluminium, il te faut un four. Qui va devoir chauffer entre 1000 et 2000 degrés en fonction de ce que tu veux, avec plein de choses. Et faire chauffer un four à 1000 ou 2000 degrés constant, sans devoir l'éteindre en continu, t'es obligé d'utiliser du charbon ou du gaz. Tu peux même pas utiliser une autre source d'énergie comme du nucléaire ou autre. Donc en fait, on est que dans des jeux de compensation comptable. Je consomme tant d'énergie d'origine charbon, gaz, etc. Et à la fin du mois, je rachète la même quantité d'énergie à quelqu'un qui fait tourner des éoliennes, etc. Mais ça, tu vois, c'est absolument pas expliqué. C'est comme les vols neutres en carbone.
Ouais.
C'est-à-dire, quand tu fais un Montréal-Bali ou un Paris-Bali, tu vas émettre environ 12 000 kilos. Donc, il faut réussir à visualiser plein de palettes, tu vois, des grosses palettes de poudre noire, tu vois. Il faut réussir à se l'imaginer comme ça. Tu vas en produire 12. Et bah, comme tu en as produit 12, ils vont te dire, bah voilà, on va filer 60 euros ou je sais pas, 90 dollars canadiens à des gens qui plantent des arbres en Colombie. Mais tes 12 tonnes de CO2, elles ont été produites, elles sont dans l'atmosphère, tu vois. Et donc, en fait, on est un petit peu dans cet état d'esprit où c'est comme si tu avais quelqu'un qui est en train de te dire « je vais faire brûler ton jardin parce que économiquement, j'ai des trucs à récupérer, mais par contre, à l'autre bout du monde, je vais remettre un jardin. Je vais donner de l'argent à quelqu'un qui va faire un super jardin, tu vois. Ça va être génial, tu vois. Mais toi, ton jardin, il est brûlé, tu vois. » Ou pour ce qui est des data centers, c'est un peu comme les gens qui roulent avec la clim à fond et les fenêtres ouvertes, tu vois.
Ouais.
Tu vois quelqu'un qui a son gros 4x4 ou son pick-up ou son SUV, qui a la clim à fond, mais qui souffle à fond et il a les fenêtres ouvertes parce que il a besoin de mettre le bras sur le bord de la fenêtre, ça lui fait plaisir, tu vois. Et puis quand tu lui dis, mais c'est...
Ou te faire entendre sa musique, qui veut vraiment te faire entendre très très fort, généralement.
Il a vraiment envie de te partager ses goûts musicaux. Et cette personne, quand tu lui dis, mais tu te rends compte, enfin, c'est, ça n'a aucun sens, il dit, ouais, mais t'en fais pas, tous les mois, je donne à l'autre bout du monde pour planter des arbres, et en fait, ça va capter le CO2 de l'autre bout de la terre de ce que j'aimais ici. Et en fait, on est en train de... Les grandes marques, du fait de ne pas pouvoir changer radicalement, parce que tout le monde est engagé dans cette course à... Cette course un petit peu à l'argent, au profit, à sortir des trucs de plus en plus rapidement. Donc on en est en fait à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on roule avec le chauffage ou la clim, les fenêtres ouvertes, mais qu'on commence à se dire qu'on va donner de l'argent à l'autre bout de la planète pour mathématiquement compenser le carbone qu'on a émis en faisant des trucs un peu délirants, tu vois.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le terme carbone neutre, c'est bien ça?
C'est ça. C'est-à-dire, tout le carbone que tu émets, tu le calcules mathématiquement. Donc, tu as des sociétés qui font des audits, qui ont des super tableaux Excel de la mort et qui, à un moment donné, te disent, voilà, quand vous fabriquez ce produit, vous allez émettre tant de quantité de carbone. C'est assez intéressant parce que sur le site, effectivement... Tu vois, c'est aussi un truc qui est bien. Après, c'est pas assez, mais c'est un truc qui est bien. Effectivement, tu peux aller sur apple.com dans la partie environnement et pour chaque produit, tu peux télécharger la fiche de son empreinte. C'est des documents qui, là aussi, sont très, très marketés. Très, très marketés. Il y a des trucs qui m'ont fait, mais vraiment rigoler. Genre, tu télécharges... Alors, c'est très bien qu'ils le fassent, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des documents, il faut aussi savoir trier l'information.
Ouais.
Tu prends, par exemple, l'impact de l'iMac. Donc, tu télécharges l'iMac. Et tu vas avoir en gros, tu vois, 60% de matière recyclée. Alors, tu sais, tu te dis, ouais, c'est bien, tu vois, matière recyclée, 60%, c'est beaucoup. Et en fait, c'est 60% de matière recyclée dans les speakers de ton iMac, tu vois. Donc, on est vraiment à ce niveau-là de marketing. Ou alors, pour l'iPhone, vu que c'est un peu le produit qui a propulsé Apple dans la place numéro 1 des sociétés les plus importantes du monde... Alors, ils sont très, très fiers. Ils vont te dire, voilà, on est à 100% de matière recyclée dans l'iPhone, dans la puce du Taptic Engine.
Ah,
donc,
okay.
Tu as une puce à l'intérieur de l'iPhone qui est issue de 100% de métal recyclé. Une toute petite puce, tu vois. On te parle... Donc, en fait, ils te mettent 60% de l'iMac, mais en fait, c'est que les speakers. Ils te mettent 100% de l'iPhone, mais en fait, c'est qu'une puce à l'intérieur, alors qu'il y en a des centaines, sans parler de l'écran ou de la coque. Et ce qui fait que si tu ramènes les fameux 60% de plastique recyclé dans les speakers à l'iMac en complet, je pense qu'on doit être à 0,2 de matériaux recyclés dans l'iMac, et puis 100%, enfin la petite puce du Taptic Engine que tu as dans l'iPhone, si tu le rapportes à l'ensemble de l'iPhone, pareil, on doit être à 1% au moins, aux alentours de 1%.
Ah, tu vois, je suis tombé complètement dans le panneau parce que j'ai un podcast sur l'univers Apple.
C'est fait pour, hein. C'est marketing, c'est bien fait, tu vas sur le site, ils te disent qu'ils font des super trucs, et puis en fait... Quand tu sais, par exemple, le coût de l'aluminium, quand tu sais comment il est fabriqué et tu te dis, mais si tu veux fabriquer de l'aluminium, tu es obligé d'avoir un four. C'est du métal, tu vois. Il faut des hauts fourneaux, des choses comme ça, même pour le recyclage. Il faut chauffer les éléments ou il faut les séparer. Après, s'ils te disent, oui, mais on alimente l'électrolyse de l'aluminium, tu te dis, oui, mais c'est juste une étape sur l'ensemble. Mais si tu as cramé 8 tonnes de charbon et puis que t'as juste passé un petit courant dans une piscine pour faire ton alliage et puis que le...
Ok. Parce que tu vois, j'avais relayé dans le podcast Apple différemment que j'anime avec Audrey Coulot, la nouvelle comme de quoi qu'ils avaient investi, ils investissaient beaucoup au Québec, notamment avec Elysis, oui. Une compagnie qui est un nouveau mode de pour développement l'or. De l'aluminium, puis ils ont investi beaucoup au Saguenay avec Rio Tinto Alcan. Pour de l'aluminium, puis au Québec, on était assez fiers de ça. Il y a eu beaucoup d'actualités qui disaient, ben, les prochains iPhones d'aluminium, de l'iPhone au complet, sera produit. En tout cas, une partie au moins sera produit au Québec. Et puis, ben, visiblement, je suis tombé dans le panneau.
C'est, comment dire, il faut toujours de base, il faut se méfier quand ça paraît trop simple.
Ok.
Et effectivement, après, c'est très bien, et c'est mieux que les autres. Tu peux prendre n'importe quelle autre société qui fait des produits électroniques ou électroménagers. Apple en fait 15 fois plus que les autres. Mais ce 15 fois plus est très faible par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire. Et encore une fois, quand tu commences à lire vraiment dans le détail ce qu'ils font, y a beaucoup de marketing. Il y a vraiment énormément de marketing dans les discours. Et puis dès que tu commences à dire « oui, mais votre aluminium, oui, vos fournisseurs... » Vos usines qui doivent assembler, je sais pas, des millions de téléphones avant les fêtes, parce que quand tu regardes les courbes de vente Apple, c'est beaucoup des pics de vente,
ouais,
tu vois, sur toute l'année. T'as vraiment des... Et pour les gens qui ont travaillé en Apple Store, c'est beaucoup ça. Des fois, tu t'embêtes, t'as beaucoup de SAV où tu t'embêtes durant des semaines, et puis tout d'un coup, tu vas vendre. Mais des iPhones, limite avec des brouettes ou avec des pelles, tu vois, ça part comme des petits pains dès que t'approches des fêtes ou de certaines zones de l'année. Et donc, quand tu vois ce type de vente, tu sais très bien qu'ils doivent préparer des stocks, mais absolument dingues, à l'approche des fêtes de Noël. Les usines ou les sous-traitants d'Apple, en fait, pareil, font de la compensation carbone. Mais au moment de les fabriquer, bah, tout est fabriqué en Chine. Donc, tu sais très bien qu'en Chine, la production d'électricité se fait massivement au charbon, qui est le truc le plus polluant du monde.
Ouais.
Donc là aussi, il y a plusieurs manières de calculer. Quand quelqu'un te dit « oui, je compense l'électricité que je consomme par de l'électricité éolienne ou solaire », quand tu brûles, quand tu veux fabriquer, je sais pas, 1000 watts d'électricité avec du charbon, tu vas peut-être produire, je sais pas, peut-être 700 grammes de CO2. Quand tu veux produire la même quantité d'énergie avec ton éolienne, ça va te prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir attendre que le vent tout fasse tourner l'éolienne, etc.
Ouais.
Qu'il y ait du vent, etc. Mais au final, tu ne vas produire que 11 grammes de CO2. Donc ça veut dire que la personne qui te dit « oui, j'ai consommé 1000 watts d'énergie pas renouvelable, du coup je la compense par 1000 watts d'achat futur dans l'éolien », elle n'a pas du tout compensé la partie carbone. Parce que d'un côté, elle a émis 700 grammes de CO2, et de l'autre côté, elle va juste réinjecter dans le réseau la même quantité d'électricité, mais qui va produire 11 grammes. Donc là aussi, il y a beaucoup de manières d'arranger les calculs un petit peu en fonction de ce que veulent les sociétés. Mais en tout cas, encore une fois, Apple fait 10 fois plus que tout le monde. Sauf Microsoft, qui veut visiblement faire de l'oxygène avec ses produits. Mais voilà, il faut vraiment faire très attention à tous ces discours très, très commerciaux et au pourcentage qu'ils annoncent. Comme l'exemple, vous pouvez télécharger n'importe quelle fiche d'impact des produits Apple. Il y a toujours des très gros pourcentages. Puis dès que tu lis les petites lignes, tu te rends compte que ça concerne qu'une vis ou un boulon sur le côté, tu vois. Il y a toute cette partie-là, et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle l'éco-conception. Tu vas sur iFixit, qui se fait un plaisir de démonter tous les produits Apple dès qu'ils sortent, tu te rends compte en fait que démonter un produit Apple, si t'es pas formé ou si t'as pas l'outil qui n'existe pas dans le magasin de bricolage où tu peux acheter un petit peu tout, tu le casses. Tu le casses, ou même pour les réparateurs agréés, il y a certains produits qui sont très très compliqués à démonter, qui sont collés, enfin, la conception des produits Apple, c'est pas le pire, mais c'est dans la moyenne du pas du tout écologique.
Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, iFixit, c'est un site qui donne des recommandations pour réparer soi-même ses appareils électroniques. Et bien souvent, quand il y a un nouvel appareil qui sort d'une grosse marque, hein, plus souvent qu'autrement, il donne un niveau de réparabilité de ces produits-là, ce qui vous donne, c'est quand même un gage de...
Est-ce que je vais pouvoir le faire durer?
C'est ça, exactement. Ouais.
C'est... Et c'est très important d'avoir ça. Et c'est vrai que quand tu te rends compte, sur la durée, Apple se situe entre 0 sur 10 et 6 sur 10. Je crois qu'il y a... c'était l'iPhone 5 qui a déjà été pour moi une des plus belles réussites en termes de design.
Ouais, et carrément, ouais.
Qui était le plus... qui était génial parce que tu pouvais le poser sur la tranche. Du coup, il y avait plein d'applications qui... très très créatif qui utilisait ce type d'usage. Enfin, vraiment, c'était un très très beau modèle. Et je crois que c'était le seul qui avait obtenu 7 sur 10 ou quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, les vis étaient apparentes, le châssis était facilement démontable. Mais voilà, c'est très très rare et il se situe souvent entre 0 et 5 sur 10. Donc si tu veux, il y a tout ça qui rentre aussi en compte. C'est que Apple, si la démarche était totalement sincère, il y a plein de choses qui pourraient changer, même à l'intérieur de la société, en termes, même sur leur campus. Enfin, il y a plein d'actions sincères que tu peux faire et en fait, elles ne sont pas faites. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont comme plein d'autres boîtes, mais qui n'ont rien à voir avec Apple. Tu peux prendre Starbucks, tu peux prendre même McDonald's ou Burger King. Depuis quelques années, ils font des études d'impact sur leur production de pollution ou de CO2. Et à partir de là, ils ont commencé à se réorienter parce qu'ils savent très bien que d'ici 5 ou 10 ans, la Terre va devenir très compliquée à vivre et que les gens vont commencer à vouloir chercher des coupables. Et donc, tu as de très, très grosses boîtes qui sont en train de faire des shifts assez énormes pour d'ici 5 ou 10 ans dire « Ah non, non, mais regardez, nous, on fait les choses bien, entre guillemets. » Et c'est là où tu vois effectivement ce discours un petit peu copié-collé entre, t'as même des producteurs d'essence ou de pétrole qui ont des super sites ou des super médias dédiés à l'environnement. Tu as Total qui a lancé carrément une chaîne de télévision, une web TV avec tout un site qui te parle d'environnement, de carbone, etc. T'as les plus gros pollueurs du monde qui y vont à fond. Et Apple est dans le lot et fait sa part à son échelle, quoi.
Si l'éco-conception vous intéresse, j'ai lu dernièrement parce que je m'intéresse au développement logiciel et il y a Frédéric Bordage qui a écrit un livre sur l'éco-conception des sites web. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à la conception logicielle aussi.
Totalement.
C'est pas nécessairement juste toujours de la production. En tant que tel physique, dans tout ce qu'on développe en tant que développeur, on a un impact. Que ce soit un site bourré d'images qui n'est pas nécessaire, que ce soit un logiciel qui envoie toutes sortes de SMS pas nécessairement obligatoires. Il y a plein de niveaux. Ce que dit Mathieu, c'est super important. Il y a plein de niveaux où on peut agir. C'est pas juste sur la conception, la pollution, le recyclage. C'est aussi sur comment on crée les choses. Puis, ce que tu disais aussi, tu sais, ce que j'ai mis dans les notes de l'émission, que j'ai fait à l'arrache, c'est que...
tu dis ça, mais elles sont super. Hein? Elles sont hyper complètes et tout.
À chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on fabrique quelque chose, nécessairement, on extrait. Il y a tout le temps cette relation de d'impact. On peut pas... Et c'est pour ça que tu dis qu'il y a rien qui est carboneutre, parce que la minute qu'on crée, on détruit ou on impacte nécessairement quelque chose.
Je crois que c'est dans les documents en plus dont je parlais avant, quand tu vas sur le site d'Apple Environnement et que tu télécharges les fiches de produits. Ouais. Je crois que c'est écrit à un moment donné, par exemple sur la fiche de l'iPhone, il te l'écrit, voilà, pour fabriquer un iPhone, il faut extraire 86 kilos. Alors j'espère que est-ce que je me trompe ou pas? Bon, il faudra que je vérifie, mais en tout cas, je crois que c'est écrit dans les documents, la quantité qu'il faut extraire. Si c'est pas le cas, c'est écrit dans les documents d'études d'impact, soit d'associations ou soit de sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui sont missionnées par les entreprises. Mais effectivement, pour produire un smartphone qui va peser entre 100 et 150 grammes, il faut faire un trou d'environ, faut extraire 80 kilos du sol, tu vois. Faut faire un trou de 10 mètres cubes. Et c'est vrai que quand tu commences à te dire, tiens, le produit que je vais acheter là, faut faire un trou faut faire un énorme trou, faut extraire 100 kilos. Il a fallu brûler du charbon, il a fallu récolter de l'or, et on sait très bien que récolter de l'or, ça se fait très difficilement de manière propre. Alors je sais qu'Apple a commencé à faire un programme dans certaines zones et qui prévoit peut-être d'ici 2025 ou 2030 de commencer à s'approvisionner de manière propre. mais on en est très loin. Et aujourd'hui, si tu veux récolter de l'or, bah, c'est des coups de dynamite, tu balances du mercure et tu récupères ce qui brille, quoi. On va schématiser, mais c'est ça.
Et puis sans compter que le recyclage, comme tu parles, des fois, il est fait aussi un peu n'importe comment. Il n'y a aucune protection pour les humains qui font le recyclage.
Ah oui, là-dessus, ils commencent à s'y intéresser. Les grands groupes commencent à s'y intéresser. Et donc, c'est là aussi où je veux vraiment, si ça permet de faire réfléchir les gens sur les messages qu'on leur envoie. Il y a quelques années, quand Apple a dit, voilà, on va vous montrer un robot qui est capable de démonter les iPhones. C'est vrai que la manière dont ils te le présentent, la manière dont ils font leurs vidéos, c'est à chaque fois magnifique, tu vois. C'est à chaque fois, tu te dis, waouh, t'as l'impression d'être dans le futur avec eux. C'est ça qui est génial avec cette marque. Ce qui, pour moi, était le cas, effectivement, début des années 2000, jusqu'en 2010 à peu près. Et c'est vrai qu'ils te présentent ce robot en te disant, regardez, ce robot, il est capable de désosser je sais pas combien de centaines d'iPhones par jour. C'est magnifique, c'est génial, c'est tout automatisé, bidule. Il te présente une super vidéo. T'as limite, t'en as pas l'utilité, mais t'as limite envie d'acheter le robot.
Ouais, juste pour faire travailler le robot. Ouais, c'est
ça. Juste pour le faire travailler. Parce que t'as l'impression d'être dans ce que tu penses être le futur, dans ce que tu crois être le futur, parce que... on a été éduqués à la science-fiction, à ce type de futur, tu vois. C'est quelque chose qu'on nous a appris au travers des films, etc. Et en fait, à un moment donné, quand tu prends en compte la chaîne de fabrication ou de recyclage, tu te dis, mais en fait, si l'iPhone était éco-conçu, il n'y aurait pas besoin de machine, tu pourrais le démonter à la main.
Ouais.
Il n'y aurait pas besoin d'une machine ultra perfectionnée qui elle-même a requis de l'extraction de minerais, de fer, d'aluminium, parce que pour produire un robot, un bras motorisé, c'est quelque chose de très complexe qui a demandé des dizaines et des dizaines d'années de recherche, etc. Et donc tu te dis en fait, mais on est clairement dans cette course à toujours plus, et tu te dis, mais vous voulez pas juste concevoir vos iPhones de manière écologique, ce qui fait qu'une personne normale ou avec un tournevis est capable de les démonter et où effectivement les pièces à l'intérieur sont modulaires. Et c'est là où tu te dis, effectivement, tu vois plein de gens s'extasier en disant « Waouh, regardez le robot !» Et en fait, tu dis « Mais en fait, c'est un produit qui lui-même a nécessité beaucoup de pollution pour être fabriqué, pour être développé. » Et au final, juste parce qu'on veut pas concevoir de manière écologique les produits, on en est à orchestrer tout ça comme si c'était de l'innovation. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie pour essayer de récupérer des matériaux rares qu'on a mis dans un téléphone. Voilà, on en est un petit peu là. Et donc, si ça peut faire réfléchir les gens, parce que forcément, on nous bombarde d'images très très bien faites, très très lissées, avec des super discours, mais quand vous voyez une éolienne. Maintenant, comme j'ai un peu étudié tout ce qui est énergie renouvelable, quand je vois une éolienne, je vois surtout 1,5 million de béton en dessous. T'as un immeuble en dessous de chaque éolienne, en termes de béton pour la faire tenir, tu vois.
Ouais.
T'as 400 litres d'huile à l'intérieur de la nacelle pour faire tourner tout ça, et c'est pas des huiles végétales. Hein. Enfin, t'as beaucoup de choses comme ça où on te présente les choses de manière simple et de manière géniale. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'est comme si toutes les marques te chuchotaient à l'oreille, continue de consommer. Continue, regarde, il se passe rien. Continue d'acheter mes produits, ça émet de l'oxygène. Tu vois, bon, reprendre l'exemple de Microsoft. Continue de voyager en avion parce que ton vol est neutre. Tu vois, et c'est vrai que plus tu t'intéresses à ça, plus tu te dis, mais en fait, c'est vraiment du. Il y a des marques qui font un petit peu de greenwashing, mais qui ont aussi des actions fortes comme Apple. Mais il y a d'autres marques où c'est vraiment, on se paye ta tête, quoi.
Écoute, au Québec, on a une autre société d'État qui s'appelle Hydro-Québec. On en est assez fiers parce qu'elle produit de l'électricité verte. Mais pour
98%.
Ouais, on a encore je pense qu'il nous reste une centrale nucléaire qui est pas une si mauvaise façon de produire de l'électricité si on se compare au charbon, je pense. Et on a décidé de la fermer suite aux événements de Fukushima. Il y a eu une réaction politique et on a décidé de fermer cette dernière centrale. Mais quand tu regardes à l'échelle du Canada, ben on est des cancres, mais c'est assez hallucinant. Si tu pouvais rappeler le site que tu avais mis, parce que Mathieu Blanco a fait un vidéo sur Instagram où il ramassait les questions des gens, de ses followers, il a montré un site à un moment donné qui montrait les sources d'énergie par pays, et quand on rapportait ça par capita, c'était juste délirant. Au Canada, je pense qu'on est dans les pires au monde en termes de production de CO2 pour faire de l'énergie. On est à 16 tonnes par habitant, les États-Unis étant à 18 tonnes, si je me rappelle bien. Les Français, je pense, c'est 5 tonnes par de CO2 par habitant. On parle de tonnes quand même. C'est fou, là.
Oui.
C'est fou.
Alors, si... J'en ai plusieurs. Alors, malheureusement, sur celui-là, effectivement, pour le Québec, il n'y a pas de données disponibles, mais par contre...
Il y a le Canada, c'est ça, il y a le Canada, mais la grosse partie qui est plus verte et qui est à mieux, c'est vraiment la partie du Québec. Mais je vais juste finir, puis te laisser enchaîner. La partie du Québec, on a fait des centrales hydroélectriques, mais on a quand même détruit des écosystèmes assez incroyables, parce que pour créer une centrale, faut qu'il y ait une pression d'eau, faut la créer. Alors, faut créer des gros barrages, faut détruire certains écosystèmes. Et j'ai écouté une pièce de théâtre qui, si ça vous intéresse et que vous êtes Québécois, même les Français, je pense que vous allez aimer aussi. Ça s'appelle J'aime Hydro. C'est une pièce de théâtre. Je vais mettre le genou à terre tout de suite, là. Ça dure 3 heures. Mais c'est bien fait et c'est très drôle. C'est fait par une personne qui connaît absolument rien dans le domaine et qui explique sa démarche pour comprendre Hydro. Parce que ici, la société d'État qui fabrique l'électricité, c'est Hydro-Québec. Elle a fait une pièce de théâtre qui s'appelle « J'aime Hydro ». Et dans la pièce de théâtre, à un moment donné, on entend une vidéo du premier ministre du Québec, la personne la plus haut placée au Québec, qui demande aux gens d'Hydro-Québec qu'est-ce qui est le plus rentable pour de la production d'énergie. Est-ce que c'est de construire des barrages ou c'est d'aider les gens à consommer moins d'électricité? Il a jamais, et c'est le plus haut placé au gouvernement, il a jamais eu la réponse. Mais certains spécialistes dans le domaine disaient que c'était nécessairement en passant par économiser, en mettant des ampoules OLED ou en mieux isolant les maisons, ou en travaillant plus sur être plus éco-responsable dans la consommation plutôt que dans la production, parce que on en produit, puis on la vend à perte, notre hydroélectricité ici. C'est fabuleux, parce que même dans une énergie qu'on se dit verte, dans une société où l'énergie est produite de manière verte, on l'est pas du tout, parce qu'on pourrait faire mieux sans forcément développer, sans forcément détruire d'écosystèmes.
Et pour l'exemple du Canada, ça va du tout au tout en fonction de la région.
Ouais.
C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends la région du Canada Nouvelle-Écosse, eux, par exemple, les gens qui habitent là-bas, à chaque fois qu'ils rentrent dans leur maison, qu'ils allument quelque chose ou qu'ils consomment en fait 1000 watts, ils vont produire, là en ce moment, je te le dis en direct, tous les 1000 watts consommés, donc pour donner un ordre d'idée, une ampoule, ça va être 10 à 50 watts et une clim, c'est 2000 watts par heure. Donc à chaque fois qu'ils consomment 1000 watts, ils vont produire 650 grammes de CO2, ce qui est énorme. Tu vas en Ontario, ils sont à 46 grammes chaque 1000 watts consommés. Mais parce qu'en fait, visiblement, par région au Canada, genre l'Ontario, elle a mis à fond l'électricité nucléaire et hydraulique. Alors que si tu vas en Nouvelle-Écosse, eux, ils sont à fond charbon et gaz.
Ouais.
Et tu vas juste à côté à l'île du Prince-Édouard, eux, ils font que de l'éolien. Donc, ils sont à 11 grammes tous les 1000 watts consommés.
Et au Québec, vu que tu es en direct, est-ce que tu as le chiffre?
Et en fait, non, là, des fois, c'est une carte qui s'appelle Electricity Map. Et comme c'est du temps réel, dès qu'il y a une rupture dans l'approvisionnement des données, la région se met en gris. Donc, il faut peut-être y retourner d'ici une heure ou demain. Et il y aura des données.
Mais c'est probablement qu'on a acheté des produits Microsoft, on est neutre, on est négatif. Alors, on ne produit aucune donnée.
Mais en tout cas, la production d'électricité au Québec, pour la région du Québec, effectivement, elle est très, très basse. Elle produit très peu de CO2 parce que, comme tu l'as dit, il y a eu un choix à un moment donné, comme en France, je vais pouvoir te le valider au niveau des dates. La France a commencé à faire de l'hydroélectricité dans les années 1920. Donc, et en fait, on a fait le maximum qu'on pouvait. On a aussi fait exploser des montagnes au CNT, au C4, pour pouvoir installer des barrages ou faire des plans d'eau. Mais on a fait le maximum qu'on pouvait très rapidement. Et puis effectivement, c'était formidable à l'époque de se dire on va pouvoir produire de l'électricité avec de l'eau, on maîtrise plutôt bien. En plus, ça fait tourner les entreprises de BTP. Donc là-dessus c'est plutôt bon pour l'économie, bon pour les politiques, bon pour tout le monde. Donc là, je vais juste regarder au Canada pour la production. Donc j'ai deux sites, c'est un qui s'appelle Electricity Map. Donc là, vous avez une carte du monde qui vous permet de voir en temps réel la production et la consommation pour tu m'entends toujours?
Oh, oui, absolument, oui.
Oui, OK. Donc là, vous avez une carte du monde avec tous les pays colorés en fonction des données qu'ils ont. Vous pouvez dire, voilà, en France, en ce moment, en temps réel, ils produisent 62 grammes de pollution, de CO2, à chaque fois qu'ils consomment 1000 watts. Et puis, on peut aller du côté des États-Unis ou en Alberta, on se rend compte que c'est 524 grammes de pollution par 1000 watts parce que quand on clique dessus, et ben en fait, en ce moment même, ils sont en train de produire de l'électricité avec beaucoup de gaz et de charbon. Et quand on va en Ontario, et bah du coup, c'est très peu, c'est 46 grammes par 1000 watts parce qu'il y a énormément de nucléaire et d'hydroélectricité.
C'est juste phénoménal. L'électricité...
Et pour le Canada, je te confirme effectivement, donc là, je vais sur un autre site qui est très intéressant qui s'appelle theshiftdataportal.org,
ouais.
Qui permet effectivement d'avoir plein d'informations de graphiques sur l'usage, la production d'électricité, etc. Et donc, si on va sur la production d'énergie au Canada, on se rend compte que l'hydroélectricité, pareil, ça a commencé dans les années 1925, où on voit effectivement que le Canada faisait de l'énergie avec du charbon. Et en fait, très rapidement, il y a eu de l'hydroélectricité qui s'est beaucoup, beaucoup développée. Et c'est très intéressant parce que le Canada a très peu utilisé de charbon dans son histoire de la production d'électricité. Vous êtes plus parti dans un mix pétrole, gaz, hydroélectricité.
L'hydroélectricité, c'est principalement au Québec. Beaucoup de gaz, ouais, effectivement. Puis des façons d'exploiter qui sont ultra mauvaises, là, comme on fait de l'extraction par dans le sol, je m'en rappelle plus le terme exact, là, pour le pétrole et pour le gaz, les gaz de schiste, là.
Les sables bitumineux?
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour produire un baril de pétrole, ça en prend un pour...
Ouais,
c'est juste délirant là, en termes écologiques. Mais non, c'est pas joyeux.
Alors, on pointe... alors, ce qui est très intéressant, je vais vous donner une bonne nouvelle, vous n'êtes pas les pires.
Okay.
Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de sable bitumineux, tout le monde, même en France, même en Europe, le Canada. Hein, c'est rentré dans la tête des gens.
Ouais.
Les sables bitumineux, c'est le Canada. En fait, il faut savoir que la plus grande installation d'extraction gaz de schiste et compagnie, elle est en Europe, elle est en Estonie.
Ah ouais ?
Voilà. Donc, okay. Vous n'êtes pas la plus grande. Donc, quand quelqu'un vous dit « Ouais, vous êtes les pires », vous dites « Non, 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 nous ne sommes pas les pires. Vous regardez en Estonie, c'est... » Et c'est assez intéressant. Alors après, l'Estonie est un petit pays très peu peuplé. Mais pour vous donner un exemple, souvent, dans la tête des gens en France... le pays qui pollue le plus pour son électricité, c'est la Pologne, parce que ils ont fait le choix du charbon à fond la caisse. Eux, ils y vont vraiment, ils s'en fichent, ils y vont au charbon. Et en fait, l'Estonie, c'est le pire parce qu'en fait, eux, ils ont ce que vous faites, mais en plus grand. Alors que c'est un tout petit pays. Par exemple, là en direct, ils produisent 1 kilo de CO2 pour 1000 watts.
Oh, ok.
Alors qu'en France, on est à 62 grammes de CO2 pour 1000 watts. Parce qu'ils ont ils ont la plus grosse installation d'extraction de gaz de schiste ou sable bitumineux, je crois. Donc, c'est une catastrophe. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu consommes 1000 watts, donc tu peux prendre, par exemple, je sais pas, ton ordinateur, ton iMac, ton Mac Pro, etc. Tu regardes l'étiquette. Dedans, il y a une alimentation, je crois, de 500 ou de 600 watts. Ça veut dire que si tu as un iMac en Estonie, toutes les deux heures, tu produis 1 kilo de pollution.
Oh, incroyable. C'est juste délirant. C'est...
Voilà.
Phew. Mais une chance, on va, ça c'est la deuxième partie, on va sauver la planète parce que on va avoir des véhicules électriques, hein.
Et juste en finir pour les sociétés, ouais. Que ce soit Apple ou autre, qui disent regardez, on fait des choses bien. Il faut savoir que pour une société, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau, pour moins consommer, mais de manière en une semaine, en un mois, elle peut les mettre en place. Et c'est en fait à ça que vous pouvez reconnaître si une entreprise le fait pour majoritairement le marketing et la communication, ou elle le fait vraiment de manière sincère, parce que des fois, vous avez des dirigeants qui sont très, très informés et qui le vivent même au quotidien. Mais par exemple, on prend l'exemple d'Apple, vous prenez n'importe quel Apple Store, la majorité du temps, c'est des grandes vitres assez impressionnantes, assez magnifiques. C'est la pire des choses qu'on peut faire d'un point de vue écologique. Okay. Quand on veut faire des bâtiments, plus il y a de surface vitrée, plus ça va être une très, très consommateur à chauffer en hiver, et plus en été, ça peut être problématique à refroidir. Parce qu'en fonction de l'exposition, si maintenant tu as... Bah c'est le principe d'une serre, hein, quand tu fais tout en verre et tu fais rentrer la lumière à l'intérieur, bah ça
chauffe.
Ça fait vraiment très chaud, ça chauffe. Et on a effectivement des problèmes comme ça, des magnifiques monuments en France où ils se sont dit « Ah, on va tout faire en verre, on va faire des genres... » Vous tapez sur Internet, par exemple, la gare de Strasbourg, t'as l'impression d'être dans, je sais pas, Independence Day ou un film hallucinant. Ils ont fait une des plus grosses coupoles en verre par-dessus la gare, enfin un truc. Tu regardes les photos, tu te dis, mais c'est incroyable. Tu ne mets pas les pieds à l'intérieur en été, et l'été est de plus en plus long, tellement ça chauffe et tellement ça te fait un effet de serre. Et le pire, c'est que la réflexion du verre sur les bâtiments en face, donc il y a carrément des centres d'affaires qui ont dû être vidés, parce que la réflexion du soleil sur les vitres renvoyait la chaleur dans les bâtiments, et donc tu avais des bâtiments qui, même équipés de clim, ils faisaient 40-45 degrés à l'intérieur des bâtiments d'affaires. Donc, c'est ce genre de choses. Ou par exemple, vous avez aussi les cantines d'entreprise. Si demain Apple dit, voilà, je mets une majorité ou que des plats d'origine végétale dans ma cantine de mon méga parc, là où ils l'ont fait, ils réduisent du jour au lendemain 90% environ du carbone qui est émis pour la production de l'alimentation.
Ouais, effectivement. Ben oui.
Donc il y a plein de petites choses comme ça que les sociétés peuvent faire pour réduire et avoir un impact absolument énorme par individu. La manière dont ils conçoivent leurs magasins, la manière dont ils les refroidissent, la manière dont ils les chauffent, la manière dont ils les des matériaux qu'ils utilisent, comment ils gèrent les cantines. Et en fait, c'est les premiers postes où tu peux avoir des effets de levier énormes sans forcément engendrer des gros changements. Parce qu'effectivement, tu peux dire oui, pourquoi vous ne faites pas une éco-conception de l'iPhone ? Parce que pour faire un iPhone éco-conçu, il faut peut-être 5 à 10 ans d'ingénierie, c'est très très complexe, de chaîne d'approvisionnement. Donc, je les critique là-dessus, mais je sais très bien que c'est très, très compliqué à faire. Mais par contre, il y a plein de choses très simples que toutes les sociétés peuvent faire à tout niveau.
Des petits gestes, ouais, c'est ça.
Et qui peuvent avoir des petits gestes qui peuvent avoir un impact énorme quand tu les as à l'échelle d'une société comme Apple, ou comme Microsoft, ou comme les autres.
Et parlant juste de petits gestes, juste pour relayer ce que tu avais donné sur ton Instagram aussi, c'est pas disponible ici au Québec ou au Canada, mais tu avais quand même, relier ça s'appelle, c'est Greenpeace qui a fait ça, c'est un site, le guide d'électricité verte, je pense, ou est-ce que c'est ça, où tu peux choisir ton fournisseur d'électricité.
Il te donne des infos, alors au Québec c'est pas possible parce que comme tu l'as dit, vous avez le monopole d'État d'Hydro-Québec, et ça aurait pas trop d'intérêt de, enfin je vois pas trop l'intérêt de libéraliser le marché de l'électricité au Canada vu que produisait déjà 98% de l'électricité avec de l'hydro, tu vois, il y a pas...
Au Québec, tu veux dire, parce qu'au Canada, c'est différent.
Ouais. Au Québec, oui, pardon, au Québec. Mais voilà, en France, ils ont libéralisé, donc n'importe qui peut changer de fournisseur, et puis comme tout est virtuel, tu peux dire, voilà, moi, je veux choisir le fournisseur bidule, parce qu'il me dit que 100% de mon énergie, ça sera issu d'éolien ou de solaire. Mais là aussi... Je mets une petite réserve. Quand vous changez de fournisseur d'électricité, vous ne changez rien. Quand vous appuyez sur le bouton pour allumer la télé ou votre ordinateur, ça va prendre de l'électricité disponible tout de suite sur le réseau, qui est majoritairement en France d'origine nucléaire. Ça va comptabiliser ce que vous consommez, et la semaine d'après, le mois d'après, ça achètera à un producteur d'électricité éolien, hydraulique ou solaire la même quantité d'énergie que vous avez consommée.
Ok.
Voilà. Et c'est là-dessus où je trouve ça très très trompeur, la plupart des fournisseurs d'électricité qui te disent « Oh, abonne-toi chez moi, tu feras un geste pour la planète. Tu feras rien du tout, tu vas juste donner ton argent à une personne différente. » Mais
c'est quand même un geste de consommateur qu'on peut faire qui va inciter les compagnies à changer peut-être des choses, non? C'est peut-être une bonne idée dans ce sens-là?
En France, il n'y aurait pas trop besoin. Alors effectivement, c'est à double tranchant. Si tu prends par exemple, si tu vas sur electricitymap.org, que tu regardes toute l'Europe, mis à part effectivement la Norvège ou la Finlande, tous ces pays qui, comme la région du Québec, peuvent faire beaucoup d'hydroélectricité, tu prends tout le reste de l'Europe, du Portugal à l'Estonie, en passant par l'Ukraine ou la Roumanie, ou même l'Allemagne, tout le monde produit entre 400 grammes et 200 grammes de pollution par 1000 watts fabriqués. La France est le seul à être à 60 grammes, entre 50 et 60 grammes, parce qu'on est le seul pays à avoir mis à fond le nucléaire.
Oui.
Donc en fait, si on veut combattre le réchauffement climatique, le but, c'est produire le moins de grammes de CO2. Et en fait, on y est déjà. On a déjà l'électricité en dehors des pays nordiques qui peuvent faire de l'hydroélectricité. On est le pays d'Europe qui a l'électricité la plus décarbonée d'Europe. On est souvent avec, par exemple, la Suède, ils sont à 40 grammes. Nous, on est à 62 grammes. Donc, si tu veux, tout l'argent qui a été foutu en France pour mettre des éoliennes qui sont fabriquées en Chine ou des panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine... tu prends ne serait-ce qu'un tiers de l'argent qui a été mis là-dedans et tu pouvais dire à toute la population, on va isoler tous les bâtiments gratuitement.
Ouais.
Et du jour au lendemain, tu te retrouvais à consommer 30% d'électricité ou d'énergie en moins l'hiver pour chauffer ou refroidir. Et là, on aurait pu couper dans les émissions de carbone de la France, mais de manière nette et radicale en l'espace de 2 ans.
Ouais,
et on aurait pu créer 50 000 emplois parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre pour isoler les bâtiments. Donc en fait, je suis très... maintenant que j'ai toutes ces informations à ma disposition, parce qu'il y a des grandes écoles qui mettent leurs cours en ligne sur les énergies et que tu peux suivre 20 heures de cours sur les énergies renouvelables et que tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu une catastrophe comment ça a été fait dans le monde actuel, tu te dis, mais en fait, on y était déjà, et en fait, on n'est pas en train de tirer le frein à main, mais on est en train de dévier, et en fait, on va augmenter notre intensité carbone par 1000 watts fabriqués.
Ouais. Ouais, et puis, je viens de lire, mais c'est fou ce que tu dis, parce que j'ai relayé une actualité sur le podcast, où tantôt, tu expliquais que les bâtiments qui sont en verre, consomment nécessairement plus d'énergie, que ce soit pour chauffer ou pour climatiser. Et moi, j'ai relayé une actualité où il y a une nouvelle start-up, et là, il y a full financement qui vient avec.
J'adore les start-up.
Écoute, il y en a des bonnes, hein. Mais celle-là, a fait des cellules photovoltaïques que tu mets transparentes, en fait, que tu mets sur les vitres pour récupérer l'énergie. Alors, c'est exactement ce que tu décris depuis le début, c'est que il y a plusieurs moyens, c'est soit tu pollues, puis après ça, on compense ailleurs, ou soit tu fais une techno qui a l'air green ou propre, mais en bout de ligne, t'en prends une autre technique, comme le robot Daisy d'Apple, ou ces cellules photovoltaïques que tu mets sur les vitres, pour compenser le fait que t'as mal conçu ton truc au début. Moi, j'expliquais qu'au Québec, ça coûtait beaucoup moins cher d'aider les gens à... Ça aurait coûté beaucoup moins cher d'aider les gens à mieux consommer l'électricité, et tu dis que c'est à peu près la même chose à la place d'avoir fait des éoliennes en France. Et c'est vrai ce que tu dis, là. Au lieu de mettre le frein à main, je pense qu'on est en train de changer de vitesse pour aller plus vite encore, des fois.
C'est ça. Et quand tu prends des cours qui ensuite te ramènent vers des documents officiels et tu te dis, voilà, la France va mettre sur 4 ans 100 milliards dans l'éolien et le solaire, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi, tu vois ? Parce que quand on te l'annonce, tu fais, mais c'est génial, parce que l'éolien, le solien, oui. Ça produit de l'électricité, c'est propre, etc. Puis tu commences à fouiller, tu te dis, ok, tous les panneaux solaires, en fait, même s'ils te disent, celui-là, il est fabriqué en Allemagne, en fait, il a été assemblé en Allemagne, tu vois, toutes les cellules, elles viennent de Chine, parce que, comme l'éolien, les 10 premiers fabricants d'éoliennes, ils sont en Chine. Et tu te dis, tout ça a été fabriqué avec de l'électricité charbon. Donc ça veut dire que quand tu achètes un panneau solaire, pour compenser, et je parle bien de compensation, pour compenser les émissions de carbone qu'il aura fallu à la fabrication du panneau solaire, vu qu'il a été fabriqué avec de l'électricité, avec du charbon, il va falloir environ 8 ans de production d'électricité de ce panneau pour compenser les émissions de sa fabrication. Et tu sais qu'un panneau solaire, sa durée de vie, elle est de 25-30 ans et que... Les meilleurs panneaux solaires vivent 25 à 30 ans. Donc tu te dis, si t'as un panneau solaire qui tient la route, il y a un tiers de sa vie qui est dédié à la compensation du carbone qui aurait été émis lors de sa fabrication. Les éoliennes, j'en parle même pas, parce que les éoliennes, on sait pas quoi en faire une fois qu'elles ont atteint leur fin de vie, qui est pareil entre 25 et 40 ans. Ça dépend du modèle et tout. Une fois que c'est démonté, on a 1 million de tonnes de béton. C'est impossible à s'imaginer, mais si vous pouvez chercher sur internet des photos des pieds d'éoliennes, c'est un immeuble. Vous avez un immeuble enterré dans le sol pour la faire tenir. Le béton qui est en dessous, on ne sait pas trop quoi en faire, ou on a des techniques, mais c'est trop cher, donc du coup, on le laisse, tu vois. Les pales d'éoliennes, vu que c'est des matériaux composites, vu qu'il faut que ce soit très très résistant pour résister durant 25 ans au vent, on ne sait pas quoi en faire pour le moment, donc on les enterre et on est un petit peu dans le mode, tu sais, on attend le petit Jésus en se disant « Oui, mais il y a bien une start-up qui va réussir à les recycler un jour, peut-être. » Le panneau photovoltaïque, pareil, j'ai cherché. Pour le moment, il n'y a pas d'usine qui gère le recyclage complet des panneaux photovoltaïques en France. Il y a un début d'usine. Il y a une moitié d'usine qui a été conçue en France pour recycler les panneaux photovoltaïques. Et la boîte qui gère cette usine de recyclage a déjà dit « Ça va coûter vachement cher et il nous faut des subventions. » Tu vois, pour continuer. Donc... Vraiment, j'en suis bien revenu des fameuses énergies renouvelables, parce qu'effectivement, le vent et le solaire, ce sont des énergies qui se renouvellent, mais la manière de les capter n'est absolument pas renouvelable. Et à partir de là, quand t'as compris le truc et que tu commences à regarder et que tu te dis « Waouh !» En fait, on est, comme tu dis, on n'est pas forcément en train de prendre la bonne direction, et en plus, on a beaucoup de greenwashing entre les deux, où t'as aussi beaucoup de marques qui vont bien fabriquer un produit dans toute leur gamme, et ils vont te faire une pub mais phénoménale autour de ce produit, comme quoi il est éco-responsable, 100% recyclable, mais en fait ce produit, sur l'ensemble de tous les produits qu'ils proposent, représente même pas 0,5% de leur production, ou rien du tout, tu vois. Il y a même des marques qui vendent des produits éco-responsables à perte, juste pour dire on en a un dans la gamme, et en fait 90% du marketing est focalisé sur ce produit-là, tu vois.
C'est triste. Puis je veux passer à l'autre section de
oui,
l'autre section,
les voitures.
Oui, parce que c'est comme ça, c'est...
les fameux 4x4 électriques. On va peut-être avoir des Hummer électriques. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a dû en fabriquer un, mais alors, peut-être moi, à la chaîne bientôt.
Je suis très enthousiaste par rapport à cette énergie-là, et je suis assez conscient que en fait il y a un problème dans le mode de transport, il y a un problème au niveau de l'humain, on veut se déplacer tout le temps à tout prix. Au Québec, juste pour la petite histoire, les gens ne le savent pas, mais pour chaque personne qui a un permis, on a 1,2 ou 1,3 véhicules. Ça en moyenne. Ça veut dire que chaque humain...
Est-ce que tu as la comparaison de ce chiffre avec les États-Unis? Parce que je pense qu'on doit y avoir un énorme delta entre les Canadiens et les
J'ai un autre chiffre qui est très triste au Québec, c'est que 70% des déplacements qui sont faits dans des véhicules, ce sont dans des véhicules où c'est juste le conducteur qui est dedans. Alors ça aussi, ouais. c'est assez triste. On se dit, bon, ben, pour compenser le fait qu'on a beaucoup de véhicules, le fait qu'on se déplace seul, ben, la recette, en fait, ce qui va nous aider à compenser ces déplacements-là pas bien pensés, ben, c'est les véhicules électriques. Alors moi aussi, je suis super enthousiaste sur les véhicules électriques. Je partage des trucs sur les véhicules.
En plus, il y a Tesla qui,
bah oui,
qui communique. Tesla qui est souvent, comment dire, dans le monde de la Silicon Valley, qui a souvent été, qui a pris le nom de, comment dire, qui a pris la place d'Apple, en fait.
Ouais, carrément, carrément. Puis c'est pas pour rien que...
Je crois qu'ils s'envoient souvent des pics en disant, maintenant, Apple, c'est le cimetière des
ingénieurs de Tesla, ouais.
Des ingénieurs de Tesla, tu vois. Si t'as pas réussi chez Tesla, tu vas chez Apple et puis tu vas t'amuser à faire des montres ou des, des trucs comme ça. J'avais vu pas mal de jokes comme ça dans les forums ou dans les Reddit où effectivement ils se balancent des pics qui sont assez durs parfois.
Et je publie et je renvoie de l'actualité sur les véhicules électriques. Puis moi-même, il y a pas très longtemps, je voulais absolument changer pour un véhicule électrique. Puis il y en a un qui m'a dit, bah, tu sais, le meilleur des véhicules, c'est quand tu l'achètes pas, en fait. C'est tout simplement ça. Si t'en as un qui va bien, que tu l'entretiens bien, que t'essayes d'économiser sur tes déplacements. On avait deux véhicules, on a vendu un, on n'a plus que un pour nos déplacements chez nous. Et puis là, j'ai dit, oh, ben, je vais regarder quand même les véhicules électriques. Et puis, j'ai avec des amis, ainsi de suite, puis on communique sur le truc. Et puis évidemment, bam, Dark Matt sur Twitter fait un petit tweet ironique. Yes, vive l'écologie. Et puis, il publie une actualité sur Chevrolet proposera des pick-up électriques avec 640 km d'autonomie. Et puis, ici, vous le savez peut-être pas, mais au Canada, puis aux États-Unis aussi, les véhicules les plus vendus, c'est des gros pick-up, une tonne et demie. Alors, t'as du Ford F-150, t'as du Dodge Ram, t'as du Chevrolet, et ainsi de suite. Et petit clin d'œil.
Alors, si ça peut te rassurer...
Ouais.
En France aussi, on vous suit. On est derrière, mais on estime que les fameux SUV vont représenter la moitié du parc automobile français d'ici 5 ou 10 ans, si ça continue comme ça.
Mais
donc, une voiture sur deux.
En fait, nous, c'est même pas les SUV. C'est des pick-up. Tu sais, les pick-up avec une benne,
ouais,
en arrière.
Ouais, ouais.
Alors ça, c'est vraiment destiné à des gens de chantier qui font du travail, qui transportent des planches de bois, qui transportent des brouettes, de la terre ou des trucs comme ça. Et là... Ce que je me rends compte, c'est que le véhicule le plus vendu, c'est ça, et c'est des jeunes familles qui n'ont absolument aucun lien avec le domaine de la construction qui achètent ces véhicules-là pour se promener
tous les
jours.
Pour l'avoir vu aussi, je me suis posé ça comme question, pourquoi les gens achètent des voitures avec des bennes, enfin s'ils veulent de la place, ils prennent un SUV, tu vois,
ouais.
C'est la même chose, c'est un 4x4 tout confort, ou c'est une maison sur roue, tu vois. Et c'est vrai que j'ai souvent vu des gens avec... des pick-up comme s'ils allaient chercher 3 stères de bois dans la forêt, alors qu'en fait, c'est des familles avec des bébés. J'ai pas compris.
Alors, la réponse, elle est en partie sur le fait que les SUV, les SUV sont pas assez gros. Les pick-up sont encore plus gros.
Ah bon?
Alors,
oui, clairement.
Pourquoi aller tout de suite dans le milieu de gamme de la grosseur? Allons tout de suite vers le plus gros.
Ok.
C'est pour ça, je parle.
Si un jour, t'as besoin de déplacer une palette de bois, tu vois. Si...
Et tu sais que l'argument... Et puis là, tu sais, j'espère que j'ai pas trop de monde qui... J'ai beaucoup d'amis hein, quand on a des pick-up. Et...
Moi aussi, hein. Enfin, des SUV, c'est...
Et tu sais que l'argument, c'est souvent ça. Ouais, ben au moins, si un jour j'ai des affaires à déplacer, des gros meubles, des trucs comme ça, ben j'aurais pas besoin d'aller en loin. Puis là, tu dis, c'est quand la dernière fois que t'as déménagé un gros meuble? Et la réponse, c'est un quasi-néant, des fois, là. C'est il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu fais, ah ouais? Ah ouais, fait que tu payes à l'année un truc pour déménager quelque chose aux 3 ans. C'est logique au niveau budgétaire. Ça va très bien.
Tout en sachant qu'en plus, en Amérique du Nord, louer un véhicule, c'est la chose la plus simple du monde.
Ouais.
Tu vois? En France, c'est hyper complexe. C'est très, très cher. Quand je me suis retrouvé... à Montréal et que j'ai dû louer une voiture, mais ça devenait un plaisir, tu vois. C'est,
ouais.
T'allais, tu donnais ton permis, ta carte, t'étais souvent surclassé. C'était un bonheur, tu vois. Je me suis dit, waouh, effectivement, t'as besoin d'une camionnette, d'un fourgon, d'un pick-up, whatever. Tu t'en as pour 10 minutes, tu reviens avec, et tu payes à la journée, mais quelque chose de. Une somme qui, pour moi, est ridicule par rapport à la location de véhicules en France, qui est compliquée et très chère.
Mais
donc, effectivement,
tu vois le surclassement.
Très prévoyant.
C'est ça. Tu vois, le principe du surclassement est assez hallucinant. Tous les véhicules que j'ai loués dernièrement, je choisissais un modèle. Et j'étais tout le temps classé, toujours sur un modèle plus gros, toujours surclassé. Alors, même dans les démarches des locataires de véhicules, faut toujours plus gros pour que le client soit content.
Ouais.
C'est vraiment inclus là-dedans. Alors, tu dis, Ouais, mais OK, on va avoir des gros véhicules. Ben, c'est la solution, c'est l'électrique. Et toi, avec ton petit tweet ironique, j'aimerais ça que tu nous expliques en quoi l'électricité ne va pas plus nous sauver sur que ce soit l'électricité à bord des véhicules ou le fait qu'on grossisse nos véhicules. Parce qu'on a débattu sur Twitter. Après ça, on a parlé du fait que, tu vois, ce matin même encore, Hyundai a annoncé qu'au Canada, ils vendraient plus la petite Accent. C'est le premier véhicule d'entrée de gamme. La semaine dernière, c'était Toyota qui annonçait que la Yaris disparaissait. Honda qui disait que la Fit et la Jazz disparaissaient. Alors, il y a deux affaires qui arrivent. C'est d'abord, on grossit les véhicules. Puis de deux, ben l'électricité va nous sauver. Est-ce qu'on est dans le champ ou...
C'est ça. Non. On n'est pas du tout sur ce qu'il faudrait faire. Mais encore une fois, on est sur... On a une solution magique, vous pouvez continuer, tu vois.
Voilà.
C'est le discours de toutes ces marques, c'est oh, c'est polluant, c'est gros, ça fait beaucoup de fumée quand on appuie sur l'accélérateur. Mais regardez, d'un coup de baguette magique, vous allez pouvoir faire la même chose avec le même confort, avec bon, d'accord, faudra peut-être la recharger, puis vous allez peut-être devoir utiliser l'ordinateur de bord ou votre iPhone avec notre super application pour avoir une recharge rapide et recharger 80% du véhicule en 45 minutes, etc., etc. Donc, on est à chaque fois dans... Il y a un problème. Regardez, on a la solution magique. Surtout, continuez de faire ce que vous faisiez. Tu vois, on est toujours dans ce discours-là qui, effectivement, n'est pas du tout, comment dire, relié à la réalité. Alors, effectivement, il y a très peu de pick-up en France et la raison, elle est simple, c'est qu'on n'a pas les routes et on n'a pas les rues assez larges.
Mais si vous les aviez, vous les auriez, je suis sûr.
Mais si on avait la possibilité, mais en fait, c'est là où tu te rends compte et tu te dis, mais pourquoi les ventes de pick-up en France sont aussi faibles? C'est tout simplement que si tu as un pick-up, tu ne peux pas rentrer dans les villes parce que comme la plupart des villes en France ou en Europe sont très anciennes, ont plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années, les rues ont été calibrées sur le modèle des chevaux, des calèches. Donc si tu veux, il y a une certaine largeur maximale à avoir, ce qui fait que si tu as un pick-up, tu prends ta place de droite et la moitié de la place de gauche. Donc, tu pourrais pas rouler ou te garer, tu vois. Tu pourrais même pas rentrer dans certaines rues. Mais si on les avait, c'est clair que plein de gens en achèteraient. Et comme tu le dis, les seules personnes qui ont des pick-up en France, c'est les gens qui sont fermiers, qui sont agriculteurs, qui sont tout le temps dans les champs avec pour aller récupérer du bois, des animaux ou que sais-je encore. Puis généralement, ils font de l'import, des modèles Ford que tu as cités ou autres. Ou Nissan aussi qui en fait pas mal. Mais bon, déjà, il y a ça. Et ensuite, comme tu l'as dit avant en introduction, tu peux prendre les statistiques dans tous les sens. Il n'y a pas moyen de trouver une statistique positive déjà autour des véhicules. C'est-à-dire que tu te rends compte que la plupart des véhicules transportent une personne en moyenne ou 1,5 personne en moyenne, que 90% du temps, la voiture est à l'arrêt.
Oui, ça c'est...
Donc, elle est garée.
Ouais, ça c'est incroyable. Achetez un produit que vous allez utiliser juste 10% du temps, tout seul, c'est rare. Et en plus, selon les chiffres et les statistiques que j'ai, d'abord, ceux qui disent qu'un véhicule c'est un investissement, c'est une dépense. Premièrement, je suis désolé de vous l'annoncer. Et c'est la pire dépense que vous allez faire à vie parce que vous la sortez du garage puis elle perd 35% de sa valeur en moyenne. Alors, c'est fabuleux, ça, oui.
Et toutes les stats du prix à l'Argus, les statistiques d'usage, ou comme t'as dit, tu vas l'utiliser 10% du temps, tout en sachant que dans ces 10% du temps, t'as un quart du temps qui est en moyenne dédié à la recherche d'une place de stationnement.
Et l'autre quart dans un bouchon, j'imagine, ou...
Ouais, les stats sont hallucinantes. Et puis après, effectivement, tu te rends compte que les voitures ont pris des centaines de kilos... On prend un confort hallucinant parce qu'on veut, déjà avoir un écran. C'était déjà une innovation incroyable. Maintenant, les gens veulent un écran 17 pouces pour le conducteur. Et puis, dans les sièges derrière, ils veulent aussi des écrans. Puis, ils veulent des prises USB. Et en fait, tu te rends compte que sur la plupart des véhicules, sur un litre d'essence, ils font aussi le calcul de quelle est la part de ton litre d'essence qui va vraiment dans les roues, dans la traction du véhicule. Et en fait, tu te rends compte dans beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'essence qui part, même plus de la moitié, je crois, qui part en fait dans le confort et dans le divertissement.
La climatisation, et c'est là où tu te dis, les fenêtres, le toit ouvrant.
La climatisation, ouais. j'en parle même pas. Alors effectivement, il y a toujours des modèles de plus en plus performants. Mais une climatisation, c'est entre... Allez, tu prends la climatisation la plus performante du monde avec... qui vient de sortir du garage, tu vas augmenter ta consommation d'essence de 10 à 15%. Et si tu as un vieux modèle qui n'a pas été révisé, tu vas peut-être consommer 30% en plus juste en allumant la climatisation. Et tout ça, c'est du confort, du divertissement, ce genre de choses. Donc déjà, tu te dis que rien que le concept, comme tu as dit, de la voiture est assez étrange. Si on avait à l'expliquer à un extraterrestre, tu vois, on fabrique des trucs qui roulent et en fait on les utilise jamais, c'est hors de prix et en fait on n'a jamais de place pour se garer, enfin bref. Et ensuite effectivement il y a eu cette mode du SUV où ils se sont dit tiens, on va les 4x4 qui étaient faits à la base pour rouler dans la nature, qui est devenu très ringard début des années 2000. Puis rouler en ville avec un véhicule qui est fait pour aller dans la nature, ça faisait pas raccord. Donc ils se sont dit, tiens, on va prendre ce modèle de châssis absolument énorme, ultra lourd, pour en faire un genre de paquebot tout confort. Puis en plus, on retire les quatre roues motrices, tu vois, c'est vraiment, on prend les inconvénients de la voiture et les inconvénients du 4x4 et on crée un SUV, tu vois.
Et soit dit en passant, pour connaître assez bien le modèle, elles sont toutes monocoques maintenant, les SUV. Alors, c'est des choses qui vont travailler beaucoup au niveau de la structure. Ce qui fait que si vous allez vraiment dans les bois ou dans des chemins rocailleux, ainsi de suite, vous allez bousiller votre véhicule de manière incroyable.
Tu prends n'importe quel SUV, tu prends même déjà un chemin de terre où il a un peu plu. Tu l'embourbes et t'es obligé de le sortir avec avec une dépanneuse ou c'est vraiment les, et ce qui est assez hallucinant, c'est que tu prends les inconvénients de la voiture, les inconvénients du 4x4, tu les mets ensemble, ça te donne les SUV, mais c'est tout confort. Ouais. C'est tout confort. Je te parle même pas des statistiques de mortalité qui sont hallucinantes. Je crois qu'à 50 km/h, donc ils font des statistiques en fonction des âges des personnes, ils te disent voilà, si vous êtes un enfant de 10 ans et que vous êtes percuté par exemple une voiture, une berline, à 50 km/h vous avez je crois 45% de chances de mourir, ok, et si tu remplaces la berline par un SUV tu passes à 100% de chance. Donc en gros,
okay.
Et quand tu commences à jouer avec les statistiques de mortalité, de visibilité, c'est vraiment tous les inconvénients de tous les modèles de voitures réunis en un. Mais, et c'est là où tu te rends compte qu'est-ce que les gens recherchent. En fait, les gens recherchent juste du confort, tu vois. Le confort est tellement important que si tu manques de visibilité, si tu fais un accident, tu 90% de chance pour que tu tues la personne. Si tu consommes plus d'essence, en fait, ça a très peu de poids dans le choix d'achat des gens. Et le seul truc qui compte, c'est être énorme sur la route et d'avoir le tout confort. Tu vois, c'est comme si la décision d'achat, elle était liée à 95% au confort, en gros.
Mais c'est un peu le lien avec ce qu'on disait précédemment, Mathieu. Là, quand tu expliques qu'il y aurait quelques petits trucs que tu pourrais faire juste pour économiser plus l'énergie, mais ces trucs-là, bien souvent, ça va jouer sur ton confort. Alors, c'est normal que les compagnies essayent de pallier à ça en disant « Ouais, ben, on veut pas jouer sur ton confort, on va jouer autrement, puis on va beaucoup faire de com là-dessus en disant « On fait des voitures propres, on fait des voitures zéro émission, puis on fait des voitures ultra sécuritaires », mais tu te rends compte que c'est ultra sécuritaire pour les gens qui sont en dedans et pas pour les gens qui sont à l'extérieur.
C'est une catastrophe. Donc là-dessus, à tout point de vue, tu peux prendre n'importe quelle statistique dans tous les sens de la voiture ou du SUV, ce sera négatif à la fin. Mais le confort. Et le confort prédomine sur tous les autres aspects de la voiture. Alors que les mêmes personnes qui achètent ce genre de voiture, si tu les prends à part et que tu leur dis « Est-ce que pour toi, l'écologie, c'est important ?» Comment tu vois le climat changer, la plupart des personnes ne feront pas le lien et te diront « Ah oui, fait de plus en plus chaud, et puis moi je fais gaffe, je fais pipi sous la douche, ou je jette les papiers dans la bonne poubelle, tu vois. » Alors que ces petits gestes ne valent absolument rien, en fait, dans toute l'énergie et dans tout ce qui est consommé, à tel point qu'en fait, toutes les avancées technologiques qui ont été faites dans les véhicules, qui ont permis de réduire les émissions d'année en année, La manière dont les moteurs consomment de moins en moins, les filtres à particules, etc. En fait, tout ce qui a été fait depuis 20 ans pour économiser de l'énergie a été annulé parce que c'est les SUV qui sont le plus vendus et ça consomme plus, ça pèse plus, ça détériore plus les roues. Enfin, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Parce qu'il faut aussi penser que quand tu roules en voiture, tu roules sur du bitume, sur de la route.
Ouais.
Et en fait, forcément, quand tu fais rouler des véhicules de 1 tonne, 2 tonnes, 2 tonnes et demie sur la route, eh ben, tu vas user beaucoup plus ta route, et que la route, c'est clairement, c'est du pétrole, quoi. On roule sur du pétrole, c'est du bitume. Et donc, à partir de là, alors déjà, effectivement, que les routes à Montréal, c'est pas vraiment, ça m'avait très surpris les routes à Montréal. J'avais cru comprendre qu'il y avait des histoires de mafia qui s'occupaient des routes
non,
et que
non,
tout
non,
était
non,
fait exprès pour
ça.
On n'a
pas le droit de dire sur le podcast le terme mafia.
C'est vrai.
Non, c'est pas vrai. mais effectivement, bon, pour ceux qui connaissent pas, on a eu plusieurs scandales par rapport au domaine de la construction. Il y a beaucoup de constructions qui ont été reliées par le passé. Je pense qu'on a réussi à endiguer ça. Des promoteurs au niveau de l'immobilier aussi, des gens de la construction qui, au niveau des pouvoirs publics municipaux, aider aux réélections de certaines personnes qui pouvaient, en fonction de leur poste, donner des meilleurs contrats. Et bien souvent, les contrats, on comprend tout très bien que c'est à l'avantage du contracteur et pas de la société. Alors, c'est ça qui est arrivé au Québec, au niveau. Mais on a redressé le pas. On fait beaucoup mieux maintenant.
Vous avez des routes qui tiennent. C'est ça le plus important.
Non, mais il semblerait qu'on n'a plus d'enveloppe brune, comme on dit chez nous. Je sais pas, on va le savoir, ces choses-là, on va savoir ça sur du long terme, si c'est mieux construit maintenant. Mais effectivement, comme tu dis, à Montréal, mais pas juste à Montréal, c'est à la grandeur de l'Amérique du Nord.
Partout.
Hein. Puis je pense aussi en Europe, j'ai entendu parler de certains contrats pour certaines compagnies de béton qui étaient plus ou moins...
Oh, de toute façon, dans le béton, tu... tu trouves de tout, tu trouves des corps, tu trouves, ouais, tu trouves tout sauf du béton parfois. Mais oui, ça c'était pour effectivement l'exemple des routes. Ce qui est très intéressant, c'est que l'automobile est le moyen de transport le plus subventionné, quasiment dans tous les pays. Très souvent, quand tu dis oui, il faudrait rendre les transports accessibles, gratuits ou sans payer, il faudrait subventionner le train. Tu as beaucoup de gens, souvent, qui te disent oui, mais on peut pas tout subventionner, tout donner gratuitement, alors qu'en fait, ce sont des gens qui se déplacent massivement en voiture qui est le moyen le plus subventionné. Mais c'est très peu dit,
ouais.
Parce que politiquement, ça le fait pas. Et donc, en fait, c'est tout ça, tous les avantages et toutes les économies d'énergie qui ont pu faites en 20 ans ont été balayées depuis l'arrivée des SUV qui consomment beaucoup plus à tous les niveaux. Donc, en fait, on a annulé, tu vois, c'est l'inverse du carboneutre, tu vois, on a annulé les économies d'énergie qu'on avait pu faire. Et donc, à partir de là, effectivement, ils arrivent en nous disant, mais en fait, à l'intérieur de vos SUV, maintenant, on va mettre des gigabatteries qui vont vous permettre de faire 600 ou 700 kilomètres d'une traite, ce qui est un besoin quotidien parce qu'il faut aussi savoir que le trajet moyen en France, il est de 3 kilomètres. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens prennent leur voiture pour 3 km.
C'est un peu plus ici, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Je pense ici, c'est 80% des déplacements sont en bas de 20 km, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup.
Voilà.
Mais on a besoin vraiment de grosses batteries pour faire 600 km, c'est ce que je comprends. Si la moyenne est très peu élevée, ça nous prend des grosses batteries. Mais ça doit foutre le poids du véhicule. Je sais pas pourquoi on veut des grosses batteries si on se déplace pas beaucoup.
C'est exactement comme ce que tu as dit avant. Quand on a commencé à avoir des voitures électriques qui avaient 100 km d'autonomie, 200 km d'autonomie ou 300 km d'autonomie, il y avait beaucoup de constructeurs qui se sont dit on peut faire des on peut faire des petites voitures comme on appelle ça des citadines.
Ouais.
Donc tous les petits modèles qui sont en train d'arrêter parce que c'est pas assez rentable. On peut faire des petites voitures citadines vu que la plupart des gens qui habitent dans les villes, ils se déplacent en moyenne pour 3, 4, 5 km. Si t'as une voiture électrique qui fait 150 km d'autonomie, tu vas au travail, tu la branches, elle est toujours à 90%. Et en fait, il s'est passé exactement ce que t'as dit avant avec l'exemple des meubles. ça se vendait absolument pas, parce qu'à chaque fois, les gens disaient « Oui, mais si un jour j'ai besoin de traverser la France.
» Ok, ouais. Ah ouais, bah
le truc qui t'arrive une fois tous les 5 ans parce que tu veux partir en vacances de manière exceptionnelle, etc. Et c'est exactement l'exemple de ce que t'as dit avant, mais c'est quand la dernière fois que t'as déplacé un gros meuble, c'est quand la dernière fois que t'as vraiment traversé, t'as fait 2000 kilomètres d'un coup, comme si jamais, bah oui, mais si un jour ça m'arrive. Et on a exactement le même style de réflexion et le même problème. Donc en fait, ils se sont très bien rendus compte qu'à l'échelle du monde, les gens voulaient toujours vraiment plus et un certain niveau. Et en fait, on s'est rendu compte que la barre fatidique, elle est aux alentours des 500 km d'autonomie. En tant que constructeur, quand tu passes la barre des 500 km d'autonomie, t'as un frein à l'achat qui est retiré dans la tête du consommateur moyen.
Ah, il se dit qu'il peut, soit... Ouais. Et tu vois, ici, c'est à peu
s'il
près...
S'il a besoin 500, de faire un go fast, ouais. Il peut. c'est...
Ouais, effectivement. Ouais. Puis... Mais par contre, tu vois, Elon Musk, lui, travaille sur... Pas sur le fait que la batterie soit plus... Encore une fois, hein, c'est le même truc qu'on dit depuis le début de l'émission. Elon Musk est supposé, il devait annoncer une batterie qui coûterait aux alentours de 100 $ du kilowatt, environ 90 euros, et pas une meilleure consommation du kilowatt, mais une création du kilowatt moins cher pour avoir le même poids, j'imagine, dans les véhicules, pour pouvoir en mettre peut-être plus, ou à tout le moins...
C'est ça.
Et c'est le même problème qu'on a parlé pour la technologie. On veut pas pour l'énergie, en fait, on veut pas améliorer notre consommation, on veut juste que ça coûte moins cher. C'est juste ça.
C'est ça. En fait, c'est quelque chose, quand tu étudies des temps longs, sur 50 ans, sur 100 ans, etc., tu te rends compte, ou même en ce moment, ce qui se passe en ce moment, hein, c'est les gens ne sont absolument pas prêts à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Changement climatique, les pics de température qu'on a un petit peu partout sur la Terre, et que ils sont ce qu'on peut appeler à consommation constante. C'est-à-dire, oui, moi je veux bien un véhicule électrique, mais par contre je veux pouvoir faire 1000 km et je veux pouvoir charger un gros meuble si j'en ai besoin un jour peut-être. Et à aucun moment, les gens sont prêts à se dire « Mais en fait, on est arrivé un petit peu au bout du bout. » Alors, on peut toujours aller plus loin, mais on est un petit peu arrivé au bout du bout. Et en fait, là, il faudrait juste commencer, ne serait-ce à réfléchir à sa consommation. Est-ce que j'en ai besoin ? Et c'est ce que tu disais avant. Est-ce que j'ai besoin d'un énorme pick-up avec un coffre derrière, alors que en fait, je sais pas, je suis une famille où on est trois, tu vois, avec un bébé ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le truc plus gros ? Est-ce que j'ai besoin d'acheter mon produit neuf pour avoir le plaisir de retirer l'étiquette autocollante de l'emballage ? Voilà, on est vraiment... il faudrait être déjà dans cet état d'esprit, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis après, effectivement, la voiture électrique... En fait, la voiture électrique règle un problème, celui des émissions.
Voilà.
C'est-à-dire que toutes les particules fines, si c'est du diesel, c'est encore pire... mais voilà, elles produisent des émissions, ce qui fait que quand tu les concentres dans des villes, tu produis énormément de petites particules, et maintenant tu as carrément des nuages, des smogs de particules qui sont issues de l'ensemble des véhicules qui n'arrivent pas à trouver de place, qui tournent en rond. Tu vois, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est un cercle sans fin. Et donc effectivement, quand tu as une voiture électrique, tu ne produis pas d'émissions au moment de rouler. Voilà, c'est le seul problème que ça règle.
Mais en tous les cas, comme on le disait tantôt, c'est peut-être une technologie propre, mais il a fallu quand même extraire des terres rares, il a fallu extraire des...
Tout le véhicule en lui-même, alors déjà, si ça peut te donner une ordre d'idée, un smartphone de 120 grammes, il va falloir extraire environ, il va falloir faire un trou dans le sol et extraire 100 kilos de matériaux.
Okay.
Pour pouvoir le fabriquer. Donc une voiture de 1,5 tonne, qui est déjà une petite voiture... une tonne cinq, je vous laisse faire le calcul. Si pour un produit fini de 100 grammes, faut extraire 100 kilos, un produit de 2 tonnes 5, je vous laisse imaginer la quantité d'énergie qu'il faut dépenser et de trous dans le sol qu'il faut faire pour pouvoir la fabriquer. Et après, effectivement, d'un point de vue des batteries, ça va poser problème parce que c'est devenu le nouvel or noir. Donc, on sait très bien. On peut même déjà se dire, dans quelques années, il va y avoir des guerres dans ce pays-là et ce pays-là. Parce que c'est eux qui ont les plus grosses réserves de lithium. Et jusqu'à présent, on s'en foutait. Et là, soudainement, ça va devenir extrêmement important. Donc, on se dit, bon, c'est des pays qui vont rentrer en guerre dans pas longtemps.
Fait qu'au niveau géopolitique, on sait déjà nos prochains... Ah, c'est bien. On tu vois, on est capable de planifier nos prochaines guerres.
Ouais. C'est ça. plus grande réserve de lithium, c'est un pays, je crois, qui commence par B. Je vais pas dire de bêtises. C'est en Amérique du Sud, en plus. Donc, autant me dire que ça va être très simple de faire de la guerre là-bas.
Ouais.
Tu vois, autant en France, on a effectivement des grandes réserves de lithium, mais chez nous, le coût de la manœuvre est très cher et très encadré, donc ça va être compliqué. Voilà, c'est la Bolivie. Bolivie, c'est la plus grande réserve du monde de lithium, pardon.
Tu sais, juste pour revenir sur des notes positives, ce serait quoi le meilleur moyen de se déplacer avec une famille? Parce que c'est tout le temps ça que j'entends, moi, dans mon entourage. Puis même moi, hein, j'ai un petit SUV, 4 cylindres. Ici, quand tu parles d'un 4 cylindres, tu fais pipi assis, là. T'es pas un vrai homme. T'as juste 4 cylindres. OK?
Ouais, je vois très bien. C'est très bien. C'est très bien parce que tu as adapté le besoin. T'as adapté ton besoin à ta consommation. C'est-à-dire, tu as effectivement un véhicule familial pour déplacer une famille. Et pas simplement, t'achètes un SUV pour faire le mâle dominant, tu vois. T'as un besoin qui est celui-là. Donc tu l'as adapté, puis effectivement, dans ce besoin-là, tu t'es dit, bon, je vais quand même prendre un 4 cylindres et voilà, ça va largement me suffire pour mon besoin.
Ouais, parce que. Donc,
si tu veux, cette démarche, elle est tout à fait correcte.
Mais par contre, quand je voudrais tirer une tractopelle, je pourrais pas. Alors, je vais...
Si une fois dans ta vie, t'as besoin.
Ouais, si une fois dans ma vie, je pourrais pas. Puis effectivement, ben, je suis pas un vrai homme. Fait qu'il faut vraiment adapter sa consommation. Toi, dans le fond, ton discours, quand t'essaies... Parce que je dis pas que tu fais du militantisme, mais on en fait tous à quelque part en expliquant les choses, ce que tu fais sur Twitter, ce que tu fais sur Instagram. Quand tu parles d'écologie, tu veux quand même qu'il y ait une prise de conscience. Et dans le fond, la seule prise de conscience que t'as à dire aux gens, ben, d'abord, lisez, allez dans les petites lignes, puis adapter réellement votre besoin à ce que vous achetez, c'est ça, hein, souvent.
Si je peux donner un exemple aussi, c'est moi, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai arrêté les podcasts un petit peu tech, comme je le faisais, parce que, pour moi, si tu veux, les principaux acteurs et les startups naissantes sont devenus une espèce d'industrie du gadget, tu vois.
Ouais.
Alors, je sais qu'en France, le mot gadget a une connotation très négative, alors qu'aux États-Unis, un gadget, ça peut être quelque chose de cool et de sympa. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion un petit peu de la futilité et de celui qui va faire plus. Et effectivement, quand tu as vécu des révolutions du style le premier iPhone ou l'Internet à haut débit, comment dire, qui étaient des choses absolument incroyables parce qu'elles ont changé la vie des gens au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te rends compte que les podcasts high-tech, ils peuvent passer 4 heures à se demander si les bordures du prochain iPhone vont faire 2 mm ou 4 mm. T'es un niveau que moi, je peux plus, en fait. Je dis, bon, ça m'intéresse pas, voilà. Et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai arrêté un petit peu les podcasts high-tech de commentaires des produits qui vont sortir, parce que on rentrait, en fait, dans l'ère du gadget complet. Et comme tu l'as dit, il faut, si vraiment ça peut donner l'esprit un peu critique aux gens de dire, tiens, est-ce que c'est vrai? Tiens, mais finalement, comment c'est fabriqué? Au-delà simplement du fait qu'ils te mettent une éolienne, une belle photo, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière? Très bien, ma voiture n'émet pas de pollution, mais comment c'est produit? Et comment c'est recyclé? Ah ben en fait, c'est pas recyclé, et puis c'est produit dans un pays à l'autre bout de la planète, ou en Chine. J'ai rien contre la Chine, mais leur électricité, c'est du charbon. Et en fait, pour te dire à quel point, c'est que nous, en Europe, alors ils sont très fiers, souvent, ils te disent « Oui, en Europe, on consomme quasiment plus de charbon, etc. » Mais en fait, si tu prends en compte les produits qu'on achète et qu'on consomme au quotidien, on consomme plus de charbon que dans les années 1900 où on n'utilisait que du charbon pour produire notre électricité et nos produits. Et en fait, on a déporté d'une certaine manière notre consommation de charbon dans des pays asiatiques.
Ouais, c'est ça. On le dépense plus chez nous parce qu'on fabrique plus rien chez nous, mais on achète ailleurs.
C'est ça.
Qui en produisent beaucoup. Exact.
Qui en produisent beaucoup. Donc en fait, c'est souvent des discours très... j'ai pas le terme poli pour dire ça, mais je trouve ça souvent faux cul, où en ce moment les gens te disent « Ah oui, moi je fais quelque chose pour l'écologie, mais faut pas se leurrer, on est un tout petit pays, ceux qui produisent le plus, c'est les Chinois. » En fait, c'est partiellement faux. si tu prends l'échelle de temps sur 200 ans, le continent qui a produit le plus de CO2, c'est l'Europe. Si tu prends une échelle de temps sur 100 ans, ça va être les États-Unis. Et si tu prends une échelle de temps sur les 10 dernières années, ça va être la Chine. Tu vois, donc tout dépend de l'échelle de temps. Tout dépend aussi après, est-ce que tu inclus les produits que tu achètes et que tu consommes au quotidien ? Parce que si tu inclus les produits que tu achètes qui viennent pour 30 ou 40% de Chine, bah en fait, tu as juste déporté ta production. Tu fais pas plus attention.
Le même principe depuis le début de l'émission, c'est vraiment le fil conducteur. C'est qu'on règle pas le problème, on déporte le problème tout le temps.
On déplace, on fait que ça.
On achète ailleurs des tu sais, quand tu te déplaces en avion, ben, ils achètent des économies de carbone ou des économies de carbone. C'est fou, correct, comme nom. On déplace, mais on adresse jamais vraiment le problème. On s'y attelle pas.
De mémoire, pour les gens qui veulent le prix, pour une entreprise, pour la compensation carbone, je crois qu'on est à $15 la tonne de carbone. Donc, si tu es une entreprise et qu'on te dit, voilà, pour fabriquer ce produit, tu vas émettre, je sais pas, 100 kilos, bah, tu sais que tu vas rajouter genre $1.50 sur ton produit, et du coup, tu pourras dire, il est neutre en carbone. Il n'y a rien qui change, hein. Tu pollues toujours autant, tu peux faire travailler des enfants dans les mines, ce que tu veux, mais tu pourras dire, il est neutre en carbone parce que j'ai filé $1.50. À une association à l'autre bout du monde qui plante des arbres ou qui ou carrément on a des trucs encore plus tordus, c'est-à-dire je pense que vous aussi vous êtes bien informé sur la manière dont est gérée la forêt amazonienne au Brésil, comme quoi elle est brûlée en masse pour faire de l'exploitation agricole.
Bah ça prend du, bah, en fait, ça on prend a... du blé pour le bœuf là, ça prend plein de trucs pour faire de la viande.
C'est ça. Et donc, en fait, on a des choses encore plus tordues parce qu'à la rigueur, tu pourrais te dire « Ok, je pollue, mais je donne de l'argent pour planter des arbres qui vont capter du carbone dans 15 ans. » Bon, déjà, c'est un petit peu bancal, mais pourquoi pas ? La démarche est plutôt... Elle est au moins un petit peu positive. Mais en fait, à l'intérieur de tous ces trucs de compensation carbone, on a carrément des trucs un peu tordus où on va filer de l'argent à des gens pour pas qu'ils détruisent un écosystème. C'est-à-dire que, par exemple, dans un endroit du monde, il y a des gens où, par exemple, il y a des super écosystèmes avec des arbres et tout, et qui disent, bah, nous, on nous propose, je sais pas, il y a une entreprise qui nous propose $1 million pour tout raser et faire un centre commercial. Et bah, l'association de la compensation carbone des grosses compagnies va venir et va dire, bah, écoutez, moi, je vous donne $1 million et du coup, vous le faites pas. Et bah, ils prennent les $1 million et puis du coup, ils s'engagent à laisser tranquille cette zone durant 10 ans, 15 ans, 20 ans.
C'est une vraie prise d'otage de la planète, finalement.
Ah, complètement, complètement. Et plus tu vas à l'intérieur des documents, des choses et tout, tu te dis, mais comment on arrive à ce point-là, en fait, comme tu dis, le problème est absolument pas réglé. Et après, pour rapidement finir sur les véhicules électriques, il y a aussi beaucoup de gens... ça, j'étais très surpris, mais tu sais, quand t'es dans des groupes Facebook de gens qui adorent les Tesla,
oui.
C'est très intéressant parce qu'ils partagent beaucoup d'informations là-dessus, ils sont toujours au fait des choses. Et il y en a beaucoup qui publient des vidéos parce que, comme tu le sais, il y a, comment ça s'appelle sur les Tesla, le mode Sentinel avec toutes les caméras qui filment en HD.
Oui.
Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se font vandaliser leur voiture, rayer, etc., par des gens qui passent devant. Et le simple fait de voir un véhicule électrique, ça les met hors d'eux. Et donc, ils prennent leurs clés et puis ils rayent la carrosserie ou ils font des choses vraiment complètement, idiotes.
Ah, j'avais ça, tu vois, quand j'étais petit, mon père avait une BMW puis il la stationnait pas partout parce que les gens rayaient les BMW. Oui.
Voilà. Et ben, okay, en fait, tu as exactement le même phénomène.
Okay.
Voilà, c'est les véhicules électriques. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelques personnes un petit peu bancales dans leur esprit. Non, non, c'est un vrai effet de masse. Pour beaucoup de gens, le véhicule thermique, c'est ce qui a permis la liberté de se déplacer. C'est incroyable de partir en vacances. Enfin, ça a vraiment révolutionné une partie de leur vie. Et aujourd'hui, le fait de voir un véhicule électrique, c'est en gros, c'est leur dit, mais ce que tu fais depuis 50 ans, depuis 60 ans, en fait, c'est de la merde, t'as détruit la planète, et puis moi, je suis la solution que tu peux pas te payer, tu vois. Et donc, j'avais absolument pas conscience de ça. Et donc, il y a vraiment des communautés de gens qui haïssent la voiture électrique, mais d'un point de vue idéologique, tu vois, c'est assez surprenant. Et donc, tu as effectivement beaucoup d'études au-delà des gens qui rayent des voitures qui vont souvent te dire « Oui, la voiture électrique, en fait, pollue autant que la voiture à essence, etc. » Enfin, tu as souvent ce genre d'études ou d'articles un petit peu étranges quand tu vois passer le titre qui te disent « En gros, tu vas polluer, tu vas émettre la même quantité de pollution ou alors il faut que tu roules au moins 400 000 km pour commencer à émettre moins qu'une voiture à essence. » Bon, tu as ce genre...
Ouais.
Il y a... beaucoup de choses qui sortent comme ça. Alors déjà, effectivement, quand tu t'intéresses un petit peu au sujet, et en fait, je me suis rendu compte que ça rentrait à l'intérieur de l'esprit des gens, parce que t'avais, je sais pas vous au Canada, mais nous en France, t'as des grands médias qui te font des fois des articles un petit peu pour le buzz.
Écoute, je vais juste te couper, parce que c'est tellement en phase avec ce que tu dis. Moi, le bout de phrase que j'ai pris, en 2009, des études démontrent que la production des voitures électriques pollue jusqu'à deux fois plus que celle des voitures à essence, je l'ai pris du site de Radio-Canada. Puis Radio-Canada, c'est une source communément très, très fiable. Alors, tu es en train de dire que ça serait pas vrai.
Mais en fait, c'est comme d'habitude. Une étude de ce niveau-là, qui est très complexe au niveau des données, de la manipulation, tu te rends compte que c'est tellement complexe de calculer ce genre de choses que tu peux, en modifiant un petit paramètre, avoir des résultats complètement différents. Et donc, d'une certaine manière, tu peux leur faire dire ce que tu veux.
Sous la torture, déjà, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut.
Voilà. Donc déjà, tu pars de là. Tu te dis, OK, pour faire une étude de comparaison de la pollution de véhicules, même si tu prends deux véhicules thermiques que tu veux comparer, tu es obligé de définir un usage, de définir plein de choses que tu vas lisser sur le temps, qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, etc. Alors en plus, quand tu veux comparer deux technologies différentes, c'est encore plus compliqué. Juste pour casser ce genre de choses, quand t'as quelqu'un qui t'affirme que ta voiture électrique pollue autant que ta voiture thermique, tu lui demandes, tu peux lui dire oui, c'est comme des tomates et les fraises, c'est la même chose. Et là, la personne, elle est censée sursauter, dire bah non, c'est pas pareil. Tu dis bah si, les deux, c'est des fruits. Donc qui a tort, qui a raison? En fait, tous les deux, vous avez raison. Effectivement, les tomates et les fraises, ce sont des fruits, c'est rouge, ça appartient à la même famille, mais par contre, quand tu les manges, c'est pas trop pareil, tu vois. Généralement, un yaourt à la tomate, t'as pas trop envie de taper dedans, alors qu'un yaourt à la fraise, ça va plutôt être délicieux. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est que la pollution que va émettre ta voiture thermique n'est absolument pas la même pollution que va émettre une voiture électrique. Donc on compare deux pollutions déjà qui sont totalement différentes. La pollution que va émettre ta voiture à essence, c'est au moment où tu vas appuyer sur l'accélérateur. Elle va brûler de l'essence, du gasoil, elle va émettre des particules, elle va émettre du CO2, etc. Quand tu vas appuyer sur l'accélérateur de ta voiture électrique, elle va rien émettre. Parce qu'elle va utiliser justement la technologie des batteries au lithium. Mais par contre, la production de ces batteries au lithium, ça va requérir, comme tu as dit, des énormes trous dans la planète pour extraire la matière. Et ensuite, la fabrication même des batteries demande énormément d'énergie. Et du coup, tu vas polluer au moment de la fabrication. Donc on est en train de comparer une pollution industrielle qui est plutôt très facilement contrôlable et décarbonable à une pollution que tu peux pas contrôler parce que ça sort du pot d'échappement et puis ça va dans le ciel, tu vois. Donc déjà, d'un point de vue comparaison, on peut pas. Et ensuite, quand tu t'intéresses vraiment au cycle de vie complet, réaliste, il n'y a pas photo. Effectivement, la voiture électrique, elle va polluer énormément, mais elle va polluer beaucoup moins et d'une autre manière que ton véhicule à essence.
Fait que de choisir son mal, une petite voiture électrique adaptée à tes besoins, ça serait le moins pire. C'est pas le meilleur, ce serait le moins pire, c'est ce que tu dis.
C'est ça. Et encore une fois, comme pour le matériel high-tech, si vous pouvez acheter d'occasion, voilà. Mais acheter d'occasion, comme tu l'as dit avant, la personne sort le véhicule de son garage, 35%, moins 35%. Ouais. Ce qui fait que aujourd'hui, et puis aussi, tu sais, comme chez vous, il y a beaucoup de leasing qui se font sur les véhicules d'entreprise, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux trouver en concession des véhicules qui ont un an, deux ans, à moins 50% du prix parce qu'ils ont été pris en location longue durée d'une entreprise sur un an, deux ans, qui renouvelle son parc. Et aujourd'hui, une voiture électrique d'occasion en France, tu peux l'avoir à 10 000 euros. Tu peux avoir une petite citadine électrique qui a été utilisée durant deux ans dans une entreprise, et puis le contrat de location est terminé ou il renouvelle, et puis du coup, ça passe en occasion et ça coûte rien, et ça évite en fait de donner de l'argent à des gens en leur disant « j'en veux une neuve ». Je reprends le parc existant. Après, c'est plus compliqué, il faut prendre le temps. Je prends l'exemple des ordinateurs ou des téléphones. Maintenant, on a pas mal de sites qui permettent d'acheter du reconditionné, ouais, avec des garanties.
Ouais, ouais.
Et c'est absolument génial. Moi, j'ai fait que ça, hein, depuis plusieurs années. Là, j'ai un Mac Pro de 2013 que j'ai trouvé sur eBay. Il y avait une société qui était en liquidation. Je l'ai eu à moins 70%. Bon, parfait, tu vois.
Mais même Apple, hein, iPhone... même Apple sur leur site, moi, en tout cas, on parlait d'Apple tantôt, c'est pour ça que je fais le lien. Tu peux acheter du reconditionné Apple avec la même garantie qu'un produit neuf. Et puis maintenant, tu peux rapporter tes produits pour avoir un rabais ou une carte cadeau. Alors ça, je trouve ça quand même bien. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font.
Non. Et en plus, ils s'engagent ou l'appareil. L'appareil, je ne vais pas acheter de nouveaux smartphones à Noël, tu vois. Alors déjà, celui que j'ai, c'est un reconditionné que j'ai acheté sur... Le site existe aux États-Unis, en France, c'est Back Market.
Ok. Back Market.
Je le mettrai dans les liens.
Cool.
Donc un énorme... C'est un genre de Amazon du reconditionné. T'as tous les produits reconditionnés, garantis 6 mois, 1 an. Donc déjà, l'iPhone 8 que j'ai, je l'ai acheté en reconditionné. Si tu veux, cette année, je vais juste changer la batterie. Je pourrais très bien acheter une batterie à 40 euros et le changer moi-même. Mais en fait, je me suis dit non, je vais... Je pourrais très bien acheter une batterie à 20 euros sur Amazon et le changer moi-même. Mais en fait, je me dis non, je vais aller chez Apple, je vais payer mes 50 pièces pour changer la batterie parce que je sais que celles qui vont changer, ils ont l'obligation de la recycler.
Alors, tu vois, petit disclaimer... C'est moi, j'ai un iPhone X et je voulais cette année juste changer la batterie. Peut-être que je vais finalement changer d'iPhone, mais en tout cas, la batterie est à un certain pourcentage, est à 83%, et j'ai fait mon lourdingue. J'ai été chez Apple, pendant la COVID, j'ai pris un rendez-vous parce que je voulais changer la batterie. Je trouve que pour la batterie, elle tient pas mes usages d'une journée complète maintenant. Et le gars a fait le diagnostic de la batterie, puis il a dit « Monsieur, elle va très bien, votre batterie. Vous n'avez pas d'affaire à la changer. » Je dis « Oui, mais moi, si je paye... » Il dit « C'est sûr que si vous payez, monsieur, on va vous le faire. » Mais il dit « Moi, je vous recommande pas de le faire. » Il tient encore bien. Il dit « Je vais vous donner des stratégies, des techniques à adopter sur votre iPhone pour... »
Vous l'éteignez. La batterie tient une...
Alors, ça sera bon pour votre cerveau puis votre vie de famille, ça, c'est sûr. Mais, mais tu vois, j'ai fait « OK, même si je leur donnais mon argent, ils n'en voulaient pas. » Puis me conseiller d'autres stratégies avant même de... J'ai trouvé ça cool. Alors, je sais pas s'ils font ça dans les Apple Store, mais j'ai trouvé ça cool de la part du gars.
Je sais pourquoi ils le font. Donc, je sais qu'il y a aussi une raison économique derrière, mais c'est très bien. C'est très, très bien comme discours parce qu'effectivement, ça fait aux gens se poser des questions.
Ouais.
Et c'est vraiment ça le principal.
Ouais. Ouais, puis je pense que c'est un peu... Tu vois, au début, on devait faire un podcast de 20 à 30 minutes. On est à 2 heures, c'est bien. On s'enligne sur le 2 heures. Mais si on devait résumer un peu toute l'émission, d'abord, faites attention sur le greenwashing, sur la com qui, quand c'est trop beau, c'est pas forcément vrai. Et puis...
Et vous allez en avoir partout.
Ouais.
Vous allez en avoir sur le high-tech, sur les compagnies aériennes. Là, vraiment, en plus, avec ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid... Ça va accélérer les choses, donc on va vraiment avoir l'écart qui est entre les paroles et les actes était déjà assez large, mais alors là, ils vont vraiment tous y aller à fond, comme quoi ils vont sauver le monde presque.
Ouais, et tu vois, j'ai écouté un reportage, puis présentement, nos gouvernements, en tout cas au Québec, réinvestissent massivement, veulent accélérer les débuts de chantiers, de construction. Faut construire des routes, faut construire des immeubles, faut construire des routes, faut construire des immeubles. C'est la réponse du gouvernement pour réinjecter de l'argent dans l'économie, pour repartir un peu l'économie dans notre province au Québec. Et je trouve ça dommage parce que l'argent qu'on va mettre là-dedans, on pourrait l'investir dans une meilleure téléprésence au niveau des écoles, une meilleure téléprésence au niveau des soutiens sociaux, une meilleure des meilleurs services pour les gens qui sont tous morts, les retraités à cause du COVID. Tu sais, je trouve ça dommage encore, on se pose pas la question, on a un modèle, on l'applique encore aujourd'hui pour après la COVID pour réinjecter de l'argent. Et t'as raison.
Entièrement.
T'as raison, c'est le vert va aussi être encore plus vert, je pense, économiquement parlant.
Ce sera la même chose, mais version verte, version bio. Mais comme tu dis, ce sera exactement les mêmes méthodes. C'est pareil en France. On remet tout, on met des milliards dans le BTP, dans l'aviation, dans les aides et une petite enveloppe pour le renouvelable pour dire on a fait quelque chose. Regardez, on avance quand même. Mais c'est rien.
Mathieu, je veux vraiment te remercier du temps que tu as pris. Je sais que t'es occupé, que tu as plein de choses, mais merci du temps que tu as pris parce que cette émission-là va sûrement aider plein de personnes. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur certains trucs. Et puis, ben, si on veut te rejoindre, si on veut suivre tes publications que tu fais, tes formations que tu fais aussi, parce que tu aides aussi au niveau formation en ligne, c'est quoi le meilleur endroit, la meilleure place?
Les gens peuvent aller sur mon site internet, ils tapent Mathieu Blanco sur leur moteur de recherche, ils vont dépenser 2 grammes de CO2 pour la recherche et ils vont pouvoir me trouver très facilement. Donc sur mon site, il y a mes formations, donc il y a plein de liens qui emmènent vers Udemy, si les gens connaissent déjà, donc plateforme de cours en ligne. Il y a le lien vers mon Twitter ou mon Instagram, etc., où je fais souvent mes lives.
Oui.
Et tout ça. Et effectivement, même si on n'est pas d'accord avec moi, j'espère que ça emmènera les gens vers se poser des questions.
Ouais, et puis je pense que t'as bien résumé le truc. Plus d'informations, pas forcément les grosses lignes, mais les petites lignes, et poser des questions. Puis merci hein, de tout ton temps, Mathieu.
Avec plaisir.
Ciao, ciao.